Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue. Je m'appelle Amandine Louis, je suis chargée de prévention des déchets pour la communauté de communes du Royan-Vercors, qui organisait cette journée en fait des transitions, le joyeux bazar. On a passé une belle journée, hein, je dois l'avouer, c'était chouette, il y avait de beaux ateliers, de belles balades, de belles rencontres, des gens très intéressés. Et voilà, on a fait un zoom particulier sur aujourd'hui sur les déchets, la prévention, la réduction, parce que bien que noyé dans différentes problématiques aujourd'hui, eh bien la réduction des déchets reste encore bien un enjeu majeur de notre société, hein, enfin, en tout cas actuelle, ça c'est évident. On a encore beaucoup de déchets, beaucoup d'emballages, etc. Donc voilà, pour ce faire, pour mieux nous en parler, on a décidé de convier une personne qui est assez ressource dans ce domaine, qui s'appelle Jérémy Pichon, et nous sommes ravis de l'accueillir ce soir. Et nous sommes aussi très heureux de vous avoir parmi nous. Voilà, je vous remercie, je vais passer la parole à Jérémy.
Merci Amandine, et bravo. Bravo pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Donc vous êtes la crème de l'écologie de Saint-Jean. Ah, parce que maintenant, ça reste un sujet l'écologie ou pas? On se demande, hein? Non mais sérieusement. Hein, vous allez voir, je vais vous faire un petit peu mon historique, rapidement, hein, je sais pas. Mais vous allez voir par quoi je suis passé et là où on en est aujourd'hui. Voilà, vous allez voir un petit peu l'évolution. Tu parlais de challenge sur la réduction des déchets, où on en est. Je vais vous faire le topo, je vais vous faire plein de chiffres, vous allez pleurer. Non, au début, ça va secouer, hein. Ça va secouer, donc accrochez-vous, restez avec moi. La première demi-heure, ça secoue. Pourquoi? Parce que je fais l'état de la planète, je fais l'état des lieux. Et je le connais bien, cet état des lieux, puisque moi, j'ai commencé tout ça en 98, donc je suis pas loin de la trentaine d'années sur ce sujet. Et vous allez voir mon évolution, par quoi je suis passé, où on en est aujourd'hui en 2026, quels sont les enjeux, tu l'as dit. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous motiver, même si je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes surmotivés. Et en tout cas, donc, merci déjà d'être venu m'écouter. Il y en a qui ont fait de la route. Incroyable. Merci à vous. Mon but, c'est de vous donner des tips, des trucs, des envies de changer d'habitude. Parce que vous allez voir que l'écologie, c'est évidemment une affaire éminemment politique et collective. On va pas se mentir. Mais l'affaire individuelle, elle est évidemment cruciale aussi. Je crois qu'on oppose des fois les gens, on oppose les choses en disant « Oui, mais on nous culpabilise, c'est pas à nous, c'est les politiques. » Ou inversement « Oui, mais si l'homme change pas, c'est pas la peine. » Les deux vont évidemment ensemble. Vous allez le voir et je vais vous en parler. Pour moi, c'est une soirée spéciale. Pourquoi? Parce que je reviens dans le Vercors. J'y ai passé 4 belles années. Et ouais, j'habitais 2 ans à Villard-de-Lans et 2 ans à Luc-en-Diois. J'étais dans le DIWA, je gérais le centre Le Moulin, pour ceux qui connaissent, c'est un centre pédagogique. J'ai passé 2 ans à faire de la citoyenneté avec les enfants, du cirque, du théâtre, de l'environnement, bref. Donc pour moi, c'est un grand plaisir d'être là, je suis ravi de revenir dans le Royan, évidemment. Et puis, c'est aussi un moment important pour moi, parce que j'ai commencé les conférences sur le zéro déchet il y a 10 ans, pile poil. C'est en 2016, septembre 2016. Et là, donc, j'arrête les conférences, parce qu'après 10 ans, voilà, les salles sont vides, c'est terminé, c'est plus le sujet. Non mais c'est vrai. Je suis désolé, je vais vous mettre une petite baffe déjà. Mais en tout cas, moi, j'arrête là en septembre 2016, comme j'aurais fait pile poil 10 ans de conférence. Je crois qu'on en est à la 399e, un truc comme ça, on n'est pas loin des 400. Je suis passé un petit peu partout dans les territoires, en France, en Europe, je suis allé en Belgique, je suis allé à Moscou, je suis allé à Casablanca. Ça a été 10 années extraordinaires, mais bon, voilà, les salles ne se remplissent plus, c'est fini, je suis inintéressant, je ne sers plus à rien. Puisqu'on a changé de monde et que maintenant c'est bon, quoi. On n'a plus besoin de faire zéro déchet. En tout cas, pour moi, voilà, c'est important cette conférence parce que j'arrive au bout des 10 ans de balade un peu partout, essayer de convaincre tout le monde. Donc, voilà, je partage avec vous mon avant-dernière conférence. Voilà, ça c'est la séquence émotion, c'est bon. Merci. Je sais pas combien de millions de personnes on a sensibilisé entre les bouquins, les confs et puis les médias. Ça a été une belle réussite. Enfin bref, on en parlera après si vous voulez. Ouais, on en a pour 3 heures, 4 heures, je sais pas, ça dépendra de vous. Non, la première demi-heure, restez accrochés et après vous allez voir, on rigole, où il y a plein de solutions, il y a plein de choses qui vont, j'espère en tout cas, vous mobiliser, vous secouer, vous donner envie. Voilà, le but c'est qu'on passe un bon moment. Je vous donnais plein de chiffres, vous allez voir. Et puis comme je suis poli, ce qu'on fait en premier, on présente dans le zéro déchet, on présente sa poubelle. Donc je vous présente ma poubelle, je vous présente Martine, qui était ma dernière poubelle, qui était en 2015. Martine, alors Martine, pourquoi on lui a donné un prénom? C'est un peu le syndrome de Stockholm, vous savez. Quand on a sa poubelle qu'on garde 6 mois, ben, y a une relation affective qui se tisse avec. Donc on lui donne un prénom, on lui parle, on la nourrit pas trop. Et puis surtout, je vous présente Bob. Bob, lui, il est dans le canapé, il boit sa coupette. Bob, c'est un bocal de déchets pour un an. Voilà où on est arrivé dans notre démarche de réduction de l'emballage. Vous dire qu'on est les meilleurs, c'est pas le but. C'est vous dire que c'est possible, puisque 3 ans avant Bob, on avait une poubelle par semaine. À partir du moment où on a décidé de réduire et donc de changer nos habitudes de consommation, parce que c'est la clé, c'est la consommation, le système dans lequel on est passé à un bocal en 3 ans. Voilà. Donc si vous voulez le faire, ben vous pouvez, c'est possible. C'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour essayer de vous donner envie. Tiens, tu peux le prendre et après tu le fais passer. Tu sais, il y a les cigarettes que j'avais repris à fumer cette année-là. J'aurais pas dû. Qu'est-ce qui nous a pris ? Pourquoi ? Pourquoi Bob ? Pourquoi arriver à ce niveau-là de changement et puis d'exigence ? Parce que vous allez voir quelque part, il y a une exigence personnelle, familiale, dans sa façon de consommer, de faire, etc. Pourquoi ? Ben parce que je vous l'ai dit, moi j'ai passé depuis 98, je suis dans les mouvements écologistes. 98, j'étais chez Attac. Vous vous rappelez Attac ? Ouais. Ignacio Ramonet, Manu Chao, tout ça. On voulait taxer les transactions financières. La taxe Tobin. On n'y est toujours pas arrivé. Hein ? Non. Mais à l'époque, j'ai commencé comme ça. Et puis, c'était l'époque de José Bové, le Larzac, vous vous rappelez ? Les anti-G8, tout ça. J'ai connu tout ça. Et puis, je suis passé par le Vercors. J'ai été éducateur à l'environnement. J'ai emmené les enfants toucher les arbres, regarder les rivières, faire des vivariums, comprendre la chaîne alimentaire. C'est comme ça que je me suis formé en tant qu'éducateur à l'environnement. Et puis surtout, je suis fan de glisse, de surf, de snowboard, de montagne, beaucoup, de rando. Donc, en 2001, on a créé un mouvement que vous connaissez peut-être ici, qui s'appelle Mountain Riders, sur le même mouvement que Surf Rider Foundation. Vous connaissez Surf Rider ? Ils ramassent les déchets au printemps, au mois de mai, sur les océans, sur les plages. On les voit souvent. Ils ramassent les plastiques avec souvent des VIP qui viennent représenter un peu le truc. Ben, nous, à l'époque, on a monté le même mouvement, mais en montagne. 2001, on était une dizaine de motivés, une toute petite asso. On a explosé, évidemment, après. Et c'est là que les déchets sont rentrés dans ma vie. 2001, ça fait 25 ans que je les vois. Pourquoi ? Parce qu'on a fait comme Softrider, on a ramassé les déchets, mais où ? En montagne, dans les stations de ski, sous les télésièges. Une fois que la neige fond, là-haut, là, au balcon, encore ensemble, là, une fois que la neige fond, allez faire un tour sous les télésièges. Ben là, c'est en ce moment. C'est en ce moment, c'est le mois de mai. Allez ramasser. Ben là, vous remontez le télésiège. Vous allez ramasser quoi ? Ben les emballages de goûter, des gants, des bouteilles d'eau minérale, des mégots. Vous savez, les gens qui sont en montagne, alors je ne juge pas, chacun fait son truc, mais on fume, on est sur le télésiège, et puis, allez, 2-3 pylônes avant d'arriver, on jette ce mégot. Alors déjà, ce geste-là, il est déjà inacceptable. Pourquoi ? Parce que quand vous jetez ça dans la rue, ça c'est direct à l'égout, direct, cycle de l'eau. C'est-à-dire que ça va rejoindre la rivière qui va aller jusqu'au fleuve, jusqu'à l'océan. On est au tout début du cycle de l'eau hein, quand on est dans la rue. Hein. Donc ce mégot-là, imaginez, nous on le ramassait en haut, en montagne, dans un milieu qui est archi fragile. Dans un milieu qui est en dormance une moitié de l'année, et là, la neige fond, embarque une partie des mégots qui vont aller directement dans le cycle de l'eau. Et pour vous donner une petite idée, on s'arrêtait, 2-3 pylônes avant d'arriver, puis là, on en faisait à la poignée, comme ça. Avec des stations comme Courchevel, ou vous connaissez ces stations-là, on avait en place des bâches avec des cibles pour que les gens, avec marqué, jette ton mégot, pour que les gens qui arrivent en haut fassent comme ça et qu'on puisse ramasser les mégots dans la bâche pendant l'hiver. Non, mais. Bref, voilà comment les déchets sont rentrés dans ma vie. Et puis, c'était ces belles années, les années 2000. Vous vous rappelez les années 2000? 2004, Al Gore, une vérité qui dérange. On commençait à sortir l'idée que le changement climatique était une réalité. C'était ça, le truc. Hein. Et puis, ça a été Nicolas Hulot. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Le Grenelle de l'environnement. Vous vous rappelez le Grenelle? 2007. Grenelle 2, 2008, Grenelle de la mer, 2009. J'ai participé à tout ça. Et là, on allait changer le monde. Première fois que les politiques, les institutions, les entreprises et les ONG représentant les citoyens étaient autour de la même table pour décider de la sortie du plastique, de la sortie de l'économie de consommation, etc. On avait tout écrit, c'était absolument génial, on y croyait. Mais bon, c'était Sarkozy, hein, avec Borloo, Kosciusko-Morizet, vous vous rappelez cette bande-là ? Et puis 2008, subprime, crise des subprimes. Première grosse crise financière, bam, tout ça est passé à la trappe, mais nous, on y croyait. Bref, j'ai continué, je suis passé par à peu près toutes ces ONG-là, j'ai même fait de l'humanitaire, je suis allé en Afrique, je travaillais pour Action contre la faim, je vous laisse imaginer les déchets là-bas. J'ai fait une mission à Madagascar, c'était le jeudi, dans le petit coin, c'était en haut, au nord de Tana, la capitale. C'était le jeudi, on sortait, on prenait un balai et on balayait tous la rue, parce qu'on était tous responsables de cette rue. Et les déchets, on arrivait au bout, il y avait un petit cours d'eau, c'était là. Voilà comment. Et aujourd'hui, dans notre monde en 2026, où tout le monde consomme partout sur Terre, c'est toujours une réalité. Hein. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, tripeux, très mal, ne s'occupent pas des déchets, si ce n'est pour les mettre en périphérie, ou des fois on les allume, ou se retrouver dans les cours d'eau. Hein. C'est ça la réalité du monde. Et pourtant, ils consomment, comme nous. Ça, par contre, c'est sûr. Ils commencent à consommer de plus en plus, et avoir accès à tout ce suremballage, et donc tous ces déchets. Hein. Voilà mon parcours pendant toutes ces années. Évidemment, j'ai travaillé pour Surfrider sur la côte. Pour vous donner une petite idée de ce que j'ai vu, je vous ai ramené une photo de ma plage. Je dis ma plage parce que j'ai habité pendant 12 ans à Cap-Breton, au Segor, vous savez, les Landes. Et ouais. Évidemment, pour le surf, j'étais allé là-bas pour la glisse, pour habiter devant les vagues. Et là, je vous présente ma plage, mon ex-plage, au mois de janvier. Ça, c'est la réalité, hein. Là, il n'y a pas de soleil, la carte postale, on ne va pas mettre sa serviette. C'est la réalité. Qu'est-ce qui se passe l'hiver quand on est dans les Landes et quand on habite à Cap-Breton, comme c'était le cas, ou dans le Pays Basque, enfin bref. L'hiver, on a des grosses tempêtes, des grosses houles, des gros vents, beaucoup. L'océan peut monter à 5, 6, 8 mètres de creux. C'est énorme. C'est-à-dire que pendant ces 24, 48 heures de tempête, l'océan va venir nous ramener sur la plage tout ce qui d'habitude échappe complètement à notre vue. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'océan est la grande poubelle de la planète. L'océan reçoit, en même temps que je vous parle, 200 kilos de déchets par seconde. Un semi-remorque de déchets se verse dans les océans toutes les 30 secondes. Pourquoi ? Parce que tout ce que l'on va consommer et produire sur Terre, nous, êtres humains, va se retrouver en partie dans le cycle de l'eau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les fleuves vont charrier tous ces déchets jusqu'à l'océan. Les grands pourvoyeurs, évidemment, c'est les grands fleuves asiatiques et africains. D'accord ? Et puis tous ces déchets, d'habitude, ils arrivent. Ils arrivent avec les cours d'eau, et on les voit pas. Qu'est-ce qui se passe ? Les cours d'eau vont amener ça à l'océan, les trois quarts vont couler. Ouais. Aller étouffer les écosystèmes marins, être ingérés par les mammifères marins, baleines, dauphins, amphibiens. Évidemment, moi, quand je travaillais chez Surfrider, j'ai fait des autopsies. Quand tu fais l'autopsie d'un dauphin et que tu relèves quasiment 3-4 kilos de plastique, tu sais pourquoi il est arrivé là. Hein. D'accord, il ne digère pas, le plastique. Donc, je vous ai mis une photo là d'un fulmar. C'est un oiseau marin en décomposition. Qu'est-ce qu'on retrouve dans son estomac ? Un briquet. On retrouve du polystyrène, un bouchon de bouteille d'eau minérale, des plastiques en fragmentés. Dans les autopsies, moi, j'ai retrouvé des brosses à dents, des balles de golf. Tout ce qui va flotter, tout ce qui est en plastique, va être ingéré par les animaux. Et cet oiseau marin-là, une étude du WWF qui concluait qu'à peu près 9 oiseaux marins sur 10 ont du plastique dans l'estomac. Hein. C'est quasiment tous les animaux marins. Et cet oiseau-là, il a la particularité, c'est qu'il habite sur une île qui est à 300 km de toute habitation humaine. Et pourtant, son île est remplie de déchets. Pourquoi ? Parce que tout ce qui n'a pas coulé, je vous ai dit que les fleuves arrivaient à amener les déchets, une grande partie va couler, les trois quarts, et puis les 20%, 25% va flotter et va être emmené par les grands courants marins. Vous savez, les grands courants marins qui parcourent notre globe, que vous avez ici en blanc, ces grands courants marins qui font les échanges entre les eaux chaudes, les eaux froides, les eaux salées, les eaux douces, qui font la régulation du climat. On parle pas mal d'El Niño avec le changement climatique qui se modifie. Ce sont ces courants marins-là qui font que la Terre est habitable. Et ils vont emmener tous les déchets, et comme la Terre est ronde, ces grands courants font ce qu'on appelle des gyres océaniques. Des sortes de tourbillons, vous le voyez ici, des sortes de gyres, et tous les déchets qui flottent vont être regroupés au centre, pour former ce qu'on appelle des continents de déchets, vous connaissez ça. Le plus grand, c'est en jaune sur l'écran, le plus grand est au nord du Pacifique, entre le Japon et les États-Unis. Pour donner une petite idée, celui-là, il fait à peu près un tiers de l'Europe. En surface. Alors bien sûr, dans mes pérégrinations, de mes projets divers et variés, j'y suis allé, j'ai vu, et là, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de déchets. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on parle de continent de déchets ? Et puis, on a commencé à prélever comme ça. Prélever dans l'eau, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une soupe plastique de 20 à 30 mètres, comme ça, de plastique en décomposition, sous tout type de forme. 25-30 mètres de la colonne, en fait, c'est juste pour l'océan, hein. C'est la colonne de vie de l'océan. C'est là où le plus de lumière rentre et là où la vie est le plus fort. Donc ce plastique-là, pourquoi ? Parce que le plastique, il a la particularité, c'est que sous l'effet des UV, de l'iode, de l'eau, le milieu marin est corrosif, hein, vous le savez, vous l'avez vu les coques des bateaux, mais le plastique va se fragmenter. Il va se fragmenter pour faire des petits morceaux que l'on retrouve sur la plage dans le sable, hein, quand on va tamiser. Moi, j'ai emmené les enfants tamiser pour leur expliquer. Ce plastique-là, on le voit à l'œil nu, et puis le plastique, il va se fragmenter jusqu'à sa plus petite molécule. Alors, on entend souvent dans les médias, on nous parle de micro-plastique. Micro, c'est quoi ? Pour les matheux, c'est 10-6. On va aller jusque plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au nanoplastique. Le plastique va se décomposer jusqu'à sa plus petite molécule, le nano. Et ce plastique-là va rentrer, vous l'avez compris, en profondeur dans la chaîne alimentaire. On ne va pas dépolluer nos océans et les mammifères de tout ce plastique-là, d'accord ? Et la deuxième particularité du plastique, c'est que la chaîne de carbone du plastique, ce polymère-là, imaginez des têtes de Mickey qui sont assemblées comme ça. En fait, le plastique est poreux. Il va agir comme une éponge. Tous les produits chimiques que ce plastique-là va croiser dans sa vie, il va le fixer. Il va l'enregistrer. D'accord ? Donc ces nanoplastiques que l'on retrouve dans l'ensemble de la chaîne alimentaire et du cycle de l'eau, ce sont des nanoplastiques qui sont toxiques, cancérigènes. On retrouve des perturbateurs endocriniens, on va retrouver des métaux lourds, des cadmiums, tout ce que vous voulez dans ce plastique-là, dans l'ensemble du vivant. Aujourd'hui, on s'en rend compte. On s'en rend compte que ce plastique-là est partout. On se rend compte que l'océan s'évapore et que ces plastiques se retrouvent dans les nuages, vont se retrouver, puisque tout ça, après, va pleuvoir sur, c'est le cycle de l'eau, hein, sur les terres. Et donc, on retrouve du plastique dans des lacs d'altitude, à 3000 mètres d'altitude. On retrouve du plastique dans les nuages. Il y a une équipe là, sino-japonaise qui a ramassé ça il y a 6 mois. Ils ont même trouvé des plastiques visibles à l'œil nu dans les nuages qui arrivaient sur le Japon. Le plastique est absolument partout, évidemment, dans vos corps, puisque nous faisons toujours partie de la chaîne alimentaire. Mais oui, on est le super prédateur, mais on en fait toujours partie de cette chaîne alimentaire. Et donc ce plastique-là nous revient, va se fixer sur l'ensemble de notre système endocrinien. Vous savez, ce sont les glandes qui fonctionnent pour l'insuline, pour la thyroïde, pour les lacrymères, tout ça. Et donc tout notre système, et nous le système nerveux, aujourd'hui, ce plastique vient se fixer là. Ça fait 2-3 ans que ça sort vraiment au niveau scientifique et qu'il y a une alerte qui est faite. Vous avez compris que ce plastique-là, c'est tout sauf neutre. Le plastique, miraculeux, on le retrouve. Et vous l'avez compris, c'est une urgence sanitaire. Il faudrait qu'on sorte du plastique et rapidement. Moi, je ne suis pas anti-plastique, hein, mais il y a des plastiques qu'il faudrait qu'on sorte rapidement. Et c'est ces plastiques-là, c'est ces plastiques à usage unique, jetable. On produit, cette année, on a produit 460 millions de tonnes de plastique sur Terre. 460 millions de tonnes, je vous laisse imaginer. 130 millions, c'est l'emballage. C'est l'agroalimentaire. C'est tous ces emballages à usage unique, jetable. On les utilise une fois, ils sont super costauds, super polluants, ils sont toxiques, et pourtant, on continue de les utiliser. Et les prévisions sont simples. D'ici 2040, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. D'ici 2040, on sera plus à 460 millions de tonnes annuelles. On sera à 600 millions de tonnes annuelles. C'est l'industrie de la plasturgie, hein, qui vous donne les chiffres là. On est dans une logique de croissance, évidemment. Donc on va vers plus de plastique. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, et qu'on avait écrit au Grenelle de l'environnement, c'est aujourd'hui faire un arbitrage radical pour dire sortons de l'emballage à usage unique, jetable. On en a fait je ne sais pas combien des lois. Il y en a encore une aujourd'hui qui va faire que 30% de l'emballage jetable doit être sorti d'ici. On n'est absolument pas dedans. Là aujourd'hui, tous les industriels, que ce soit l'agroalimentaire, de la plasturgie, etc., continuent de produire et continuent d'utiliser. Malheureusement. Pourquoi on en est là ? Pourquoi on en est là à remplir nos océans, à se polluer nous-mêmes ? On le sait, hein, on le dit. Hein. Pourquoi ? Parce que tout notre système économique et social est basé sur la croissance. Je ne vais pas vous faire le débat de la croissance, je vais vous faire sa traduction écologique. Croissance économique égale consommation. Okay ? Et la clé aujourd'hui de la consommation, comme elle est mondialisée, on produit loin de son lieu de consommation, il faut emballer. L'emballage est la clé du business d'aujourd'hui, avec le transport. Okay ? Mais l'emballage est la clé. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on continue d'disséminer autant de plastique et pourquoi toutes les prévisions sont la croissance, que le plastique est la clé de la croissance, évidemment. Donc, je vais vous faire la traduction écologique de ce que ça signifie, cette logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, économique, dont nous avons fait le choix. C'est un choix d'organisation. Okay. Pour consommer, pour remplir notre caddie aujourd'hui, c'est simple. Il nous faut de la matière première. La matière première, alors pour le plastique, évidemment, c'est le pétrole. Il nous faut de la matière végétale, il nous faut de la biomasse, il nous faut des métaux, tout ça est extrait, évidemment avec beaucoup d'énergie. Et puis cette matière première, il va falloir la transformer. Transformer dans les complexes manufacturiers ou dans l'agriculture, d'accord ? Pour transformer cette matière première, il faut de l'énergie. Quelle est l'énergie aujourd'hui, attention, c'est pour vous la question. Quelle est l'énergie aujourd'hui qui fait marcher les usines du monde ? Et particulièrement dans la grande usine du monde qui est la Chine, quelle est l'énergie qui fait tourner les usines ? Le charbon. Le charbon. Moi, vous savez, à l'école, on nous dit, oui, il y a eu la première révolution industrielle, vous savez ? C'était Germinal, c'était les corons, c'était le charbon avec les gâteaux noirs qui sortaient de la mine. Et puis après, il y a eu la deuxième révolution industrielle, ça a été le pétrole. Okay ? Et puis là, il y a la troisième révolution industrielle, c'est les énergies renouvelables, on va basculer au lien, tout ça. Et dans l'imaginaire collectif, et ce qu'on nous raconte à l'école, c'est qu'en fait, ces phases-là se succèdent. Mais elles ne se succèdent pas, elles se superposent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le charbon est toujours le moteur de l'économie mondiale. Alors nous, en France, on ne le voit plus, puisqu'on a viré toutes nos cheminées. On a l'impression que ça a disparu. Mais le charbon est toujours le moteur de l'énergie mondiale et de l'économie mondiale. En Chine, 60% du mix énergétique aujourd'hui, c'est le charbon. En 2025, là, cette année, la Chine a ouvert une usine à charbon, donc pour fabriquer l'électricité, tous les 3 jours. Ils en sont à peu près à 100 gigawatts nouveaux annuels en charbon. C'est fou, hein ? Donc le charbon, ok ? Le pétrole, évidemment, pour déplacer les marchandises, les transporter, déplacer les gens, etc. Et puis de l'eau. L'eau est absolument cruciale dans toutes les logiques de transformation, qu'elles soient agricoles ou manufacturières. L'eau est partout. On a besoin d'eau pour tout. Et en quantité absolument hallucinante. Un t-shirt, c'est 3 mètres cubes d'eau. Un café, quand vous buvez un petit café, c'est 140 litres d'eau. L'eau est partout. Évidemment pour l'électronique, mais aussi pour les vêtements, pour l'alimentation, l'eau est partout. Quand on a extrait de la matière, transformé avec de l'énergie de l'eau, on va donc avoir un bien de consommation, un produit que l'on va pouvoir acheter, mettre dans son caddie, et qui va avoir une vie. Et en fin de vie, il va devenir un déchet. Le déchet est le symptôme de notre société de consommation. Le déchet est l'image et ce qui nous reste de tout ce qu'on a consommé. D'accord ? Nous sommes dans une économie linéaire, une ligne droite. Extraction, transformation, consommation, je jette. Une économie linéaire, très très loin de l'économie circulaire, dont on devrait aujourd'hui aller vers et changer, en tout cas, notre économie circulaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? On nous dit, mais vous inquiétez pas, changeons rien. C'est le top, on a tous une super consommation, on est tous très heureux comme ça, et puis ça crée de l'emploi, comprenez bien, monsieur, ça crée de l'emploi. Là. Changez rien, parce que de toute façon, on a la solution, les déchets, on va tous les récupérer, et on va les recycler. Et on va les réinjecter comme matière première en début de ligne. Terminé, l'économie circulaire, c'est le recyclage. Ouais, c'est ça qu'on nous raconte. Alors, le recyclage, j'ai rien contre, et puis on va en reparler après. C'est même une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution. D'accord ? On recycle très peu et très mal aujourd'hui, malheureusement. Alors, on a parlé du plastique jusque-là, on va prendre l'exemple du plastique. Le plastique, en fait, on ne devrait même pas parler de recyclage. On devrait parler de décyclage. Le recyclage du plastique, quand on va recycler la chaîne de polymère, elle devient fragile. Le polymère devient fragile. Donc il ne tient pas. C'est un peu comme le papier. Au bout d'un moment donné, la fibre. C'est pareil. Le polymère, quand on le recycle, la chaîne devient fragile. Il faut réinjecter du plastique vierge, sinon elle ne tient pas. Donc il va falloir aller chercher du pétrole pour refaire du plastique, pour que le plastique recyclé fonctionne. Et puis ce plastique-là, surtout, il va devenir de mauvaise qualité. C'est des plastiques que vous allez retrouver dans le pare-choc de vos voitures, dans les pots pour la jardinerie. Ces plastiques de mauvaise qualité, on va les mettre au recyclage ensuite ? Ils vont redevenir un autre plastique ? Mais non, ils vont être soit incinérés, soit enfouis. Le plastique est tout sauf circulaire. Et la plupart des matières que l'on a extraites en début de ligne sont irrécupérables. Je peux en prendre plein d'exemples si vous voulez. Un métaux, le titane. Le titane, c'est le blanc de votre t-shirt, c'est le blanc des peintures. 95% du titane, c'est le blanc. C'est la teinture blanche. On va aller gratter le mur là pour récupérer le titane. On va aller gratter le t-shirt. La plupart des matières que l'on utilise sont perdues, dispersées. Je prends un autre exemple, une portière de voiture. On a tous des voitures. Une portière de voiture, c'est à peu près entre 12 et 15 matières différentes. Dedans, on va retrouver différents types de polymères, de l'acier, du cuivre pour les conducteurs électriques, etc. On va décomposer l'ensemble de la portière pour récupérer chaque élément et le remettre en fonction en début de ligne. Même si on voulait le faire, techniquement, ce n'est pas possible. C'est très compliqué. Et en plus, les filières économiques aujourd'hui, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher d'importer ce truc qui sort soit de terre, soit de première fabrication, que de le recyclage, malheureusement. Donc le recyclage, il nous permet d'amener certaines solutions, mais il est loin d'être la solution unique et magique qui va faire que tout ça va continuer. Et malheureusement, c'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, c'est bon, on recycle. Ils pensent que tout ce que l'on va consommer va dans la poubelle qui est recyclée. Donc on est décomplexé. On est décomplexé, on peut continuer à acheter l'emballage et l'agroalimentaire a gagné quelque part puisqu'ils vont continuer à provoquer et à produire et vendre de l'emballage et du sur-emballage, malheureusement. Et tout ce que vous consommez donc dans votre vie, je vous l'ai expliqué, va arriver en fin de vie et devenir donc un déchet. Absolument tout ce que vous avez dans votre vie, que ce soit pour l'alimentation, le jardin, les enfants, la maison, le mobilier, tout, absolument tout, va avoir une fin de vie. Est-ce qu'on l'a mesuré avant? Est-ce que ces matières-là vont être récupérées, recyclées? Est-ce qu'on a pensé à la seconde vie? Est-ce qu'on a pensé à le réparer? On a surtout pensé à le produire et le vendre. C'est tout ça la clé aujourd'hui. On produit, on vend et on fait de l'argent. Et donc en bout de ligne, les déchets, ça représente aujourd'hui 390 kilos de déchets par an et par Français, à peu près. On aurait un peu baissé à 360. Après moi, j'ai évité les territoires où ils sont plus et les territoires où ils sont moins. Vous êtes un petit peu moins ici, on va dire. Ils sont là, ouais. Yes. Oh, le royaume. Et si j'ajoute tout ce que l'on jette en déchetterie, c'est 590 kilos de déchets. Vous savez, en déchetterie, c'est le point d'apport volontaire. Vous allez amener des déchets verts, du carton, des métaux, etc. Les artisans vont amener leurs placos, leur bois. Alors, ouais. C'est 590 kilos de déchets par personne en France et par an. Et ça, c'est la plus petite partie de l'iceberg. C'est la partie visible. Ce sont les déchets que vous allez mettre vous-même avec votre petite main dans la poubelle ou à la déchetterie. La plus grande partie des déchets qu'on produit, on ne les voit même pas. Ils sont cachés. Si je prends l'ensemble de nos secteurs économiques en France, donc l'agriculture, l'industrie et le BTP, on est à peu près à 14 tonnes de déchets par an et par Français. 14 tonnes que l'on ne voit pas, mais qui sont indispensables à notre mode de vie. On a une belle salle ce soir pour faire cette conférence, on a des belles routes, on a des beaux équipements. Tous ces déchets-là sont utiles à notre mode de vie, nous appartiennent. 14 tonnes par personne, que l'on voit même pas. Et à ça, il faudra ajouter l'ensemble des déchets cachés qui sont liés à tout ce que l'on va importer. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près la moitié de notre balance commerciale, elle est même un peu plus déficitaire. On va dire qu'à peu près la moitié est importée. Donc on peut largement doubler 14 tonnes, on peut se dire, allez, 30 tonnes de déchets cachés par personne. C'est énorme. C'est énorme. Je n'ai pas le chiffre exact parce que vous avez vu qu'on importe de pays où, genre la Chine par exemple, on cultive plutôt l'opacité sur les données qu'autre chose. On ne veut surtout pas les données. Donc moi, je n'ai pas le vrai chiffre, malheureusement. Par contre, j'ai un chiffre intéressant. C'est que pour produire tout ce que l'on consomme, rappelez-vous la petite équation, matière première, énergie, eau. La matière première, il nous faut chaque année par Européen, par Français, 50 tonnes de ressources disponibles, y compris la biomasse pour l'agriculture et notre alimentation, 50 tonnes de ressources disponibles par an et par Français et par Européen. On va dire par occidental, mes Américains, ils pourraient. C'est énorme. 50 tonnes, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on exerce une pression sur le milieu qui est trop élevée. On va déforester, on va artificialiser, on va extraire. Tout ça, la biodiversité, aujourd'hui, elle en paye le prix. Ça signifie quoi? En 50 ans, là, on a perdu 70% des mammifères. En 50 ans, on vient de perdre 70% de la biomasse des insectes. Ben oui, on a une agriculture intensive, on met des insecticides, ben ça marche. Ça marche. 70% de la biomasse des insectes en moins. Dans la chaîne alimentaire, les insectes, c'est la base. Sans insectes, je vois pas comment on va manger dans quelques années. Hein. Ben on en est là. Hein. On assiste à la 6e extinction de masse de la biodiversité dans l'histoire de la planète. Et il y a une rapidité qu'on n'a jamais connue. Parce que notre système de production exerce une pression trop forte. D'accord ? Énergie et eau, je vous ai dit la petite équation. On en est où de l'eau aujourd'hui ? 2/3 de l'eau douce aujourd'hui sur Terre est surpolluée. On produit tellement vite, tellement fort, on rejette tellement dans le milieu qu'il n'a pas le temps de se dépolluer. Alors peut-être pas la Bourne là, mais si vous allez dans n'importe quel fleuve, grand fleuve asiatique, c'est une hécatombe. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Entre les déchets et les produits chimiques, c'est une catastrophe totale. Évidemment, tout ça va à l'océan et c'est systémique, hein, tout ça nous revient, n'oublions pas. La Terre est ronde et systémique, tout nous revient. C'est pas parce que c'est loin que c'est pas pour nous. Hein. Au contraire. 2/3 de l'eau douce aujourd'hui est au-delà de sa capacité d'assimilation. La nature le ferait très bien. Encore faut-il lui laisser le temps. Les arbres sont les grands dépollueurs. Encore faut-il lui laisser le temps. Il y a un temps de dépollution qui est long. Nous, on produit trop vite. Okay. Et puis surtout, je vous ai dit qu'il fallait de l'énergie fossile, pétrole, charbon, beaucoup d'énergie pour alimenter ce système-là. Ça signifie quoi ? Quand on crame du charbon ou du pétrole, on émet du CO2, donc changement climatique. Mais visiblement, c'est plus un problème. Ils ont sorti un nouveau groupe là, de 40 personnes qui remet en question le GIEC, vous avez vu ? C'est plus 4 degrés à la fin du siècle. On est à 3,5, voire 3,2. On a été quand même un peu trop pessimiste. Hein. On en est là de la communication en ce moment. Vous ne laissez pas avoir. Hein. Vous ne laissez pas avoir. Je vous ai dit, 2025, la Chine, 100 nouveaux gigawattheures de charbon. C'est hallucinant ce qu'on est en train de faire. Bref, maintenant, tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire, les émissions de CO2 ? Ben que on réchauffe la planète. On en est où aujourd'hui du réchauffement ? Là, en Europe, on a à peu près, enfin, on va dire au niveau global, on a à peu près 1 degré de réchauffement. Ça, c'est ce qu'on vit, les canicules, l'été, tout ça, un peu plus tôt. Ça. On sait qu'on va à 2 degrés, c'est acquis. Avec l'ensemble des émissions carbone depuis le début de l'industriel, 2 degrés, c'est acquis. On ne fera pas moins. C'était les accords de Paris, vous vous rappelez ? Avec Fabius, là, qui avait tapé comme un juge de paix, là, pour dire, c'est bon, j'ai solutionné le truc. 2 degrés. Alors, j'ai une bonne nouvelle. 2 degrés, c'est encore faisable. On peut rester à 2 degrés de réchauffement. C'est encore faisable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport aux énergies fossiles ? Voilà, stop. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 80% du charbon là, qui font marcher les usines du monde, il faudrait le laisser sous terre maintenant, tout de suite. Là. 80%. Ça veut dire que l'ensemble de la machine économique de production actuelle, j'enlève 4/5 de son énergie, tout de suite maintenant. C'est ça, hein, 2 degrés, si on veut le faire. Et 30% du pétrole. Finalement, le détroit d'Ormuz, c'est peut-être cool hein, qu'il soit un peu... Enfin, ça, c'est entre nous. Parce que le truc à 2 euros le litre, c'est chiant quand même. Et voilà ce qu'il faudrait faire. Donc, bonne nouvelle, on peut rester à 2 degrés. Est-ce qu'on va le faire ? Je ne sais pas qui veut vous dire aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des tellement grosses crises que ça va s'arrêter, moi, j'espère. Peut-être que ça va être ça, la solution. On n'aura pas le choix. Bref, si on va à 3 degrés en 2060, ou 4 degrés en 2100, puisque... Je pense qu'on est largement dans la réalité et moi je pense qu'on peut même aller plus. 4 degrés en 2100, ça signifie quoi ? On sera en tongs dans le Vercors au mois de janvier ? Bon, la neige, on l'oublie. 4 degrés, ça signifie quoi ? Je donne 2-3 petits trucs clés. 4 degrés, ça veut dire que l'ensemble de l'équateur sur Terre est inhabitable. Trop chaud, trop humide. C'est létal. Le corps ne peut pas se réguler. Okay ? Le subtropical, ça devient compliqué. 4 degrés, l'ensemble de l'Afrique, quasiment, n'a plus de production céréalière. Hein. Là, c'est famine sur famine. 90% de l'Afrique n'a plus de production alimentaire. C'est ça, la réalité. Bangkok est sous l'eau. Le Pakistan, il fait 60 degrés, c'est inhabitable. Le Nigeria est devenu le Sahara. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Et ça, c'est la conclusion du 6e rapport du GIEC. 4 degrés, ça veut dire que 3,5 milliards de personnes sur Terre sont en insécurité climatique, donc susceptibles de migrer pour manger, se loger. Juste les besoins primaires, hein. 3,5 milliards de personnes sont susceptibles de se déplacer d'ici la fin du siècle. Là, on en a combien ? On en a quelques millions annuels pour l'instant. Au début. Hein. Imaginez le chaos dans lequel on va être. C'est ça le changement climatique. C'est pas une blague de « il va faire un petit peu plus chaud ». même les rendements alimentaires en France, d'ici 4 degrés, ça va être très compliqué. Hein. Peut-être qu'on va arrêter le maïs, enfin. Bref, voilà où on en est. Désolé pour le topo, je l'ai mis une claque, mais d'ailleurs, il y a plein de solutions. Et c'est ce que je raconte, moi, je vous l'ai dit, depuis quoi, 25 ans, je ne sais pas. Je suis passé partout, dans toutes les ONG, dans tous les pays. J'ai fait à peu près tous les médias que je pouvais, les télés, les radios. J'ai pas dû être très bon. Hein. Non, j'ai dû être nul, vu où on en est. C'est même plus le sujet maintenant. Donc, par contre, moi, je pensais être bon à mon niveau. Je pensais être éveillé, je pensais faire des belles choses. Je pensais qu'avec ma famille, dans ma vie personnelle, j'avais compris, réellement. Je mangeais bio, je faisais du compost, je commençais à être pas mal, quoi. Et puis c'était en 2014 à l'époque, je travaillais pour Surfrider. Je m'occupais de la pédagogie là sur le littoral européen là, pour expliquer le plastique sur les océans. Donc j'amenais les gens sur la plage, tout le monde, hein, les élus, les entreprises. J'amenais beaucoup de monde sur la plage hein, pour montrer le plastique et leur expliquer le système tel que je vous l'ai expliqué maintenant. Et je rentrais chez moi après ça, après une bonne journée de travail, et je mettais du plastique dans ma poubelle. Je vous ai dit, je jetais une poubelle par semaine. Incroyable. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a un souci. Si moi, qui suis conscient, j'arrive à acheter une poubelle par semaine, c'est vraiment que le système, il est pas bien, quoi. J'ai pris la poubelle, je l'ai mis dans le jardin. Printemps 2014. Il y a 12 ans. Voilà ma poubelle en 2014. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, pas de matière organique, puisque j'avais déjà un compost. Ça, j'avais un peu percuté depuis quelques années déjà. Essentiellement, des plastiques à usage unique, jetable, des plastiques à usage unique, de mouchoirs jetables, de jeux jetables, de beurre mangeable, de goûter, de stylos, de médicaments, de bonbons, d'huile d'olive, les pailles, oh les pailles. Hop, oh, non, c'est bon, c'est jetable. Bah, on peut la laver, non mais ça va pas, arrête les colos là. On la jette, c'est jetable, c'est bon. Et on avait même un tire-croc. Vous savez à quoi ça sert le tire-croc? C'est en haut là, la petite... Eh oui, pour se sortir les cornichons sans se mouiller les doigts. Eh oui, indispensable dans une société aujourd'hui. Je veux dire, le tire-croc, moi si je prends hein, la courbe du progrès depuis le début de l'industriel, le tire-croc, il est pour moi, c'est un aboutissement. Hein. C'est l'aboutissement de tout un système et d'une société. Comment vivre sans tire-croc? Est-ce que tout ça va se recycler? Est-ce qu'on recycle le beurre là? Ah, l'emballage du beurre. C'est un bel exemple, l'emballage du beurre. Bon, vous faites gaffe, il est bio. Hein. Oh, t'es bien. L'emballage du beurre. Plastique, aluminium collé. Paf. Nous, dans l'univers imaginaire maintenant des médias, on nous dit quoi? Mettez-le dans la bonne poubelle. Car tous les emballages se trient. Donc, tri veut dire recyclage, ce qui est complètement faux. Est-ce qu'on recycle l'emballage du beurre? Ben non. Nous, on pense tous qu'ils vont prendre l'aluminium, ils vont faire des cadres de vélo. C'est ? Et après, ils vont prendre le plastique, ils vont faire des caouets. Ou des barquettes pour les fraises. C'est ça, on a tous l'impression que c'est nickel, le système. Mais c'est pas ça, le recyclage des matières. C'est hyper compliqué, les matières. Et des plastiques, on pense qu'il y en a 7, mais il y en a peut-être 40 ou 50 polymères différents. Et ils en inventent encore. Des plus souples, des plus ci, des plus ça. On ne recycle même pas l'emballage du beurre. On ne sait pas faire. On n'a même pas la capacité de séparer ces deux alliages-là. Donc quand vous avez un alliage dans un produit, dites-vous déjà, c'est compliqué, voire c'est mort. Donc là, à peu près tous les emballages que vous avez là, ils vont finir, surtout incinérés. Bon, alors maintenant, il y a le grand mot. Hein. On nous dit valoriser. Oui, parce qu'on va cramer ça dans une cimenterie ou un chauffage urbain. Alors, moi, je veux bien, on récupère une partie de l'énergie, très bien. Mais arrêtons de penser que les déchets vont être un système de chauffage. Enfin, il faut sortir de la cohérence, quoi. Bref, on était là, devant cette poubelle, en se disant, mais c'est pas possible. On lutte contre le plastique. En fait, on est en plein dedans, quoi. Et c'est là que notre idée est venue, parce que le zéro déchet en 2014 n'existait pas. On était en train de l'inventer avec Bea Johnson aux États-Unis, indépendamment de notre volonté. Mais bref, on se disait, mais est-ce qu'on peut se passer de tout ça? Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut vivre sans tout ça? Donc, on s'est dit, OK, ben, on va voir. On va voir si on peut s'en passer. On change et on dégage tout ça, on n'en veut plus. Tout le monde nous a dit autour de nous, vous êtes fous? Vous allez faire comment pour les cornichons? T'inquiète, on a la fourchette, on est fous. Première année, on est donc passé de notre poubelle par semaine à une poubelle par mois. Et ce qui est intéressant, quand on change ses habitudes juste pour virer tous ces plastiques-là, on a beaucoup moins de choses dans le bac de recyclage. Tiens, est-ce que ce serait pas un début de solution? Deuxième année, on est passé à une poubelle en 6 mois. C'est là que Martine est rentrée dans notre vie. Un très beau compost, un bac de recyclable en 6 mois. Alors, il manque toutes les bouteilles de verre. Voilà. Parce que aujourd'hui, mon principal déchet, mon principal volume, c'est la bouteille de verre. On en reparlera évidemment après. Mais en tout cas, tout ce qui peut rester à se recycler, c'est à peu près ça en 6 mois. Et puis, au bout de 3 ans, on est arrivé à un bocal pour 1 an, pour 4, avec tout ce qu'on n'a pas pu éviter dans la recherche d'évitement, justement, au bout des 3 ans. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Les pansements. Les pansements pour les enfants, parce que ça, on ne le recycle pas, toujours pas. Les emballages de pharmacie, c'est les médicaments, là. Plastique, aluminium collé. C'est plié, hein? Et quand vous les avez encore des médicaments dedans, vous voulez ramener à la pharmacie? Dites, ouais, je suis citoyen. Qu'est-ce qu'ils en font, la pharmacie? Incinération. Il n'y a pas de circuit d'occasion. Moi, je rêve qu'on envoie ça en Afrique ou dans des pays où ils aimeraient juste se soigner. Nous, on en surproduit parce que ça rapporte de l'argent et on les met à cramer. Non, mais c'est... Bref, qu'est-ce qui nous reste? Les bonbons, parce qu'on a quand même négocié avec les enfants. Il y a un moment donné où tu peux pas tout acheter en vrac, ils ont les têtes brûlées, les gamins, ils étaient fans. Bref, les petites étiquettes sur les fruits. Mais à qui ça sert, ces étiquettes? Alors, je vous donne des petits trucs zéro déchet. Hein. Nous, on prend les étiquettes et hop, on les met sur les autres pommes. Comme ça, c'est pas dans notre bocal. Ah oui, chacun sa gueule, hein, zéro déchet, à un moment donné. Non, mais voilà, notez parce que c'est des trucs, c'est intéressant. Et puis, tous les emballages plastiques, genre les blisters. Vous savez, c'est blister. Blister, en anglais, ça veut dire un film plastique, en gros. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, on produit loin du lieu de consommation. Donc, on blisterise tout. Vous savez, c'est ce film plastique autour du concombre chez Lidl. À l'individuel. Il est partout, ce blister. Même quand t'en veux pas et que t'as bataillé pendant 1 an pour en avoir, il y en a qui t'arrivent dans ton bocal. C'est fou. Hein. Comment on a fait pour arriver au bocal en 3 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies pour réduire autant? On se dit, c'est pas possible. On était devant la poubelle, comme ça, en 2014, à prendre chaque déchet, à se battre pour savoir qui avait acheté le goûter, sur-emballer des enfants en base de sucre et plus de sucre. Et comme ça, on s'est dit, si on le veut pas, en fait, il faut pas l'acheter. C'est simple, c'est aussi bête que ça. Quand vous allez en grande surface, vous remplissez votre poubelle. Et en plus, vous l'achetez, ce déchet. La moitié de votre caddie, c'est poubelle, c'est l'emballage. Et vous le payez 3 fois. Vous le payez la première fois dans le prix, parce qu'ils vous font pas cadeau. Hein. L'emballage, c'est pour vous, hein, il est dans le prix du produit, d'accord? Vous allez le payer une deuxième fois, puisque la TVA que vous payez dans votre produit, une partie de la TVA sert à payer aujourd'hui le traitement des déchets en France. Est-ce que vous avez une idée du coût annuel du traitement des déchets en France, dans l'Hexagone? 16 milliards d'euros annuels sont dépensés au traitement des déchets. Tout compris, hein, tout secteur économique. 16 milliards d'euros, incroyable. On en paye une partie avec la TVA, évidemment. Et puis, une fois que vous êtes chez vous, que vous avez bien consommé ce produit suremballé et vous le mettez à la poubelle, vous allez payer une taxe pour les ordures ménagères. Vous allez le payer 3 fois, le produit. Okay. Donc, nous, on s'est dit, on va refuser. On ne veut pas ce déchet. Stop. On refuse. On ne l'achète pas. Donc, il a fallu qu'on trouve des solutions. Comment faire pour continuer à manger du beurre sans acheter cet emballage qu'on ne recycle pas? On allait voir la fromagère. Bonjour. C'est possible d'avoir un beurre sans emballage? Oui. Elle nous sort la motte. Elle prend son fil, elle le coupe, paf. On avait amené un petit tube, un petit contenant, on l'a mis sur sa balance, elle a fait la tare, c'est-à-dire qu'elle a mis à zéro sa balance, elle a mis le truc, 300 grammes de beurre, et on avait la solution pour le beurre. Et au passage, et ça c'est un truc du zéro déchet qui est génial, on a retrouvé le goût du beurre, parce que alors celui-là, je peux t'assurer que c'est incroyable le goût qu'il a. C'est une AOC, la plupart du temps, il est hyper bon. Donc ce beurre-là nous a permis d'enlever un emballage. Et vous allez voir, il y a plein de solutions pour plein de choses, juste parce que je décide, moi, de faire l'effort de sortir cet emballage-là. Et puis, du coup, on s'est mis à faire plein de choses dans nos vies et on s'est mis dans une démarche d'économie circulaire. Là, celle-là, la vraie, pour le coup, sans même le savoir, juste de manière complètement empirique. L'économie circulaire, c'est les 4 R. Vous avez entendu parler, ça, les 4 R. Le premier R, c'est réduire. Réduire, réduire, réduire. Et ça, c'est le premier des R. Et c'est le plus important. On est dans une logique, aujourd'hui, sur Terre, on est 8 milliards. On sera bientôt 10, peut-être 12 milliards, selon les prévisions de l'ONU, d'ici 2060. OK? s'il n'y a pas une grosse pandémie ou si on ne s'est pas tous exterminés entre temps. Mais à 8 milliards, ça ne fonctionne pas trop, mais alors à 12, donc il va falloir qu'on réduise, et surtout nous, pays occidentaux, il faudrait qu'on réduise notre consommation d'énergie, notre consommation de matières premières, d'eau, etc. Et à titre individuel, réduire, ça signifie quoi ? Ben, acheter moins, posséder moins. Donc quand on a compris ça, on s'est mis en fait pendant 2 ans et demi dans une démarche minimaliste. Ce qu'on voulait au début, c'est ne plus rien jeter dans la poubelle. Donc on s'est dit, tout ce qu'on a dans nos placards là, va avoir une fin de vie, ça va finir dans la poubelle. Donc on s'est mis à trier. On s'est mis à faire des vide-greniers. On a vendu des vide-maisons, des vide-garages. Pendant 2 ans et demi, on a tout vidé. On a fini par habiter dans un mobil-home de 34 mètres carrés à la sortie. Tout ce que je postais tenait dans un 9 mètres cubes. Bon, après, il y avait les vélos et les planches, mais... En fait, on s'est mis à réduire, réduire. Et donc, réduire ce que tu consommes, arrêter de faire du shopping le samedi, parce que de toute façon, à part claquer de l'argent et venir stocker, c'est incroyable ce qu'on stocke. Hein. On en a plein les placards, on en a plein les armoires, on a 30 jeans, 50 t-shirts, et on va en racheter. Mais ceux-là, on les met pas. Le garage des Français. Tu sais, quand tu rentres dans le garage, t'es comme ça. C'est parce qu'il y a la voiture qui gêne. La voiture, elle dort dehors depuis très longtemps, en fait. Hein. C'est des cartons de fringues. Mais oui, mais je vois que vous souriez, mais c'est partout pareil. On est dans une société de surconsommation, donc on surstocke. C'est comme ça. On a réduit ce qu'on possédait. On a vraiment été dans une démarche minimaliste, je vous l'ai dit. Et ça fonctionne, hein, ça fait du bien. Et puis le second R, et celui-là pour moi, c'est le plus important. On s'est mis à acheter d'occasion. Au début, on ne voulait pas acheter des trucs neufs parce que quand tu achètes un truc neuf, tu as le plastique, le carton, le polystyrène. Enfin, tu remplis ta poubelle en 2 secondes pour un petit objet. On s'est dit, on n'achète plus neuf, on achète d'occasion pour arrêter ces déchets-là. Et puis en fait, on s'est rendu compte que quand tu achètes d'occasion, c'est un vrai acte écologique. Tu donnes une seconde vie à un truc qui existe déjà. Que ce soit un vêtement, un objet, ce que vous voulez. Tu lui donnes une seconde vie. Ça signifie quoi ? Rappelez-vous tout à l'heure la petite équation. Matière première, énergie, eau. Ben, quand tu achètes un truc d'occasion plutôt que neuf, tu économises autant de matière, d'énergie et d'eau. C'est une réalité. Et on est une société de production aujourd'hui qui est tellement folle qu'il y a de tout pour tout. Vous trouverez n'importe quoi, ce que vous voulez, d'occasion. Faites le test. Hein. Moi, je suis habillé entièrement d'occasion. Pourtant, je suis classe. Hein. C'est que de la récup, c'est que de l'occasion. Celui-là, j'ai payé 60 centimes à Emmaüs. Emmaüs Po, c'est le plus grand Emmaüs de France, il est génial. J'adore aller là-bas, c'est la caverne d'Ali Baba. Tu sors pour 5 euros, tu as acheté tout ce que tu avais besoin. Bref, troisième R, c'est la réparation qui va avec. On répare plus, on jette. Mais non, ça coûte moins cher d'acheter neuf. Et puis le dernier R, c'est le recyclage. Quand on a fait tout ça, quand on a réduit, qu'on a réutilisé, qu'on a réparé, qu'on a vraiment une démarche de consommation modérée finalement liée aux besoins, qu'on recycle ce qu'il y a à la fin, moi je veux bien. Et attention, hein, des matières recyclables, hein, réellement. Je vous en parlerai des matières qui se recyclent bien tout à l'heure. Voilà les 4 R. C'est comme ça qu'on est arrivé au bocal. On arrête là ? Non, je... Comment on a fait en détail ? Votre poubelle, c'est votre poubelle grise là. Je vais simplifier, mais votre poubelle, c'est 3/3. Premier tiers, c'est toute la matière organique. Solution ? Facile. Compost. Vous avez tous un compost ici ? Évidemment, c'est la solution ultime. 1/3 des déchets de l'année que vous allez pouvoir éliminer en une action. Vous avez une maison, mettez un composteur au fond du jardin. Vous êtes en immeuble, aujourd'hui on vous aide à mettre des composteurs collectifs. Il y a même du porte-à-porte qui s'organise dans certaines villes, etc. C'est-à-dire, le compost, c'est facile, il faut juste décider. 1/3 des déchets. 2/3 de votre poubelle, c'est l'emballage agroalimentaire. C'est ma poubelle en 2014 et tous ces plastiques. Vous voulez la solution ? Alors, comment on fait pour le 2/3 ? Hein ? Ouais. N'allez plus en supermarché. Sauvez votre santé, sauvez l'environnement, sauvez la planète. N'allez plus en supermarché. Quand je dis ça, les gens me disent « Ouais, mais c'est radical !» Effectivement, il y a des trucs pour lesquels on peut y aller. Puis c'est facile de craquer, le supermarché. Non, mais c'est fastoche. Mais tu peux décider de ne plus aller en supermarché. Du coup, pour ce 2/3, qui est l'alimentaire, vous avez vu que 2/3 de votre poubelle, c'est l'alimentaire. Hein. Le 3/3 de la poubelle, c'est tout le reste. C'est tout ce qui va arriver en fin de vie. Vos chaussures, vos stylos, les jouets des enfants, tout ça. Ça, c'est le 3/3. 2/3 de votre poubelle est donc lié à l'alimentation. Pour sortir du supermarché et continuer quand même à manger, on va où ? marché, ouais, circuit court, versus circuit long. Le supermarché, ce sont des circuits longs. Ça veut dire que quand vous achetez un ketchup à Carrefour, il vient d'où votre ketchup ? Il vient de Turquie. Votre vinaigrette, elle vient de Tchéquie. Votre yaourt, il vient de Biélorussie. C'est ça la réalité. Alors c'est marqué en français, c'est tout bien. Dès qu'il y a marqué CE, vous savez que c'est pays d'Est. C'est fastoche. Easy. Faites-le, faites des enquêtes, allez voir où c'est produit. C'est produit loin du lieu de consommation, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a l'impression que c'est tout de chez nous, hein ? C'est fou, hein ? Que dalle. Tout ce que vous allez en supermarché, la moitié quasi est importée, hein. C'est ça la réalité. Sortez du supermarché, faites des circuits courts. Nous, on fait le marché. Moi, j'adore aller au marché. Je n'en loue pas un. Enfin, bon, que je ne sois pas là, quoi. Bah, demain matin, je ne serai pas là. Demain matin, je vais le louer. Nous, c'est le dimanche matin. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on prend nos petits kits pour faire les courses. Alors, soit un sac de caisse. Moi, je vous conseille le caddie. Le caddie, surtout, si vous avez une famille avec 4 enfants, comme madame. Bravo. Et un caddie. Dedans, on met tous les petits contenants, okay, le bocal, tout ce qu'il faut, les sacs en tissu. Voilà. Et là, on va au marché. Premier truc qu'on fait, on ne fait pas les courses. On boit un café. Ben oui, c'est le village, il faut faire tous les dossiers, on connaît tout le monde. Tu bois un café, deux cafés, tu commences à trembler. Troisième café, tu n'es pas bien, tu prends un blanc. C'est pour moi, c'est mal. Ben oui, moi j'adore le marché parce que c'est la convivialité. Tout ce que tu n'as pas en grande surface. Et, ouais. Et là, t'as tes producteurs. Alors après, à toi de trouver les bons produits. Hein, mais la première truc qu'on va voir, c'est la fromagère. Bonjour. Le tupperware, elle met sur la balance. Clac. Le beurre, les petits fromages. Tu ramènes les deux bouteilles de lait en verre, parce qu'il se trouve que elle a des bouteilles de lait d'une GAEC qui est absolument extraordinaire. T'as ton lait, ok. La crème fraîche, elle a un seau. Elle y va à la louche comme ça, dans le pot. Et la crème fraîche, là, c'est du 40%. Mais c'est... soir. 40%, elle est super bonne cette crème fraîche. Je vous ai dit, les produits sont tellement meilleurs. Là, on va dire qu'allez, on va faire les prix parce que 40 euros. 40 euros chez le fromager, ça va, on est bien. Hein, on s'est quand même un peu lâché. Hein, ok, 40 euros, on a les produits laitiers de la semaine pour 4. On est bon. Après, on va le boucher. Alors, moi, je suis pas végétarien. Ils sont déçus. Hein. Oh, ah, il était bon jusque-là. Il est pas vegan. Non, je ne suis pas végétarien, je suis flexitarien. Alors, je mange quasiment plus de viande rouge, mais un peu, voilà, je viens du sud-ouest, hein, j'ai été élevé à la graisse de canard, ça coule dans mes veines encore. Donc, il me faut un petit peu, j'aime bien un peu la petite terrine, j'aime bien la petite saucisse, voilà. Donc, hop, on donne les tupperwares au boucher, nous met le petit poulet qui a gambadé dans la ferme à 25 km. Ce qui est important sur la viande, c'est deux choses. La première, c'est de réduire. On ne peut pas manger du bœuf tous les jours à 8 milliards d'individus sur Terre. C'est physiquement pas possible. C'est physiquement pas possible pour cette petite planète ronde. Point. Il n'y a pas à discuter. Il faut réduire. D'accord ? Devenez végétarien si vous voulez. Ma fille est végétarienne à 18 ans. Très bien. Mais surtout, il faut réduire. Nous, c'est quoi ? 2-3 fois la semaine. Je crois que j'ai dû en manger, oui, 2 fois cette semaine. Et le plus local possible. Ça, c'est la deuxième chose de la viande. Plus c'est local, plus c'est extensif, c'est-à-dire plein air, mieux c'est pour le bilan carbone. D'accord ? Donc voilà, on donne les petits tupperwares. Allez, je veux dire... 30 euros de produits carnés pour la semaine pour 4. Ça va ? Allez, 40. Ouais, on se lâche. 40 euros, 40 de fromage et de produits laitiers. Ok ? Après, on va chez le primeur. Alors là, le primeur, allez-y. Fruits, légumes, c'est la base de l'alimentation. Ce n'est pas le Nutella, les chips, en fait. On remplit le caddie, on remplit le sac, les poireaux, les brocolis, ce que vous voulez. Évidemment, de saison et le plus local possible et le plus bio. Impossible de faire 100% de bio, local et saison. J'y arrive pas. Si vous y arrivez, bah tant mieux. Moi, chez moi, c'est pas possible. Mais j'essaye au maximum de tendre vers ça. Allez, on est des fous. 50 euros de fruits et légumes. Là, vous avez de quoi faire la semaine. Hein, t'en fais des... Mais vous mangez combien, madame? Elle est comme ça. Ah oui, 50 euros. Moi, je fais la semaine. Hein, il en reste. Hein, il faut faire les compotes à la fin, sinon on jette. Hein, 50 euros de fruits et légumes. Franchement, pour 4, t'as largement de quoi faire la semaine. Et puis, une fois la semaine, on va acheter du vrac, on en parlait tout à l'heure, pour tout ce qui est épicerie, produits secs. Les pâtes, la farine, la semoule, le riz, etc., les céréales, ce que vous avez besoin, en vrac, à la Biocoop ou dans le magasin de vrac, si vous avez la chance qu'il en reste encore un chez vous. Ils sont tout le monde tous fermés, c'est incroyable. Et là, pareil, on met quoi ? 40 euros, faites gaffe au vrac. Hein. N'allez pas quand vous avez faim, parce que là, tu craques sur les amandes au curry, machin, tu te fais dérouiller. Combien ? 66 euros le kilo ? C'est un truc de fou. Hein. Première fois que j'ai fait le vrac en me lâchant, 120 balles à la truc. Hein ? Tu sais, t'es obligé de poser un rein ou un œil en truc.
Voilà, t'as fait tes courses. À la semaine, on en est à pour combien, ceux qui font les comptes? 140, 150, 160, on est par là. Vous savez combien ça coûte le caddie moyen pour 4 en grande surface aujourd'hui? Selon l'Observatoire de la qualité de vie, selon les MFR, on est à 250 euros aujourd'hui par semaine pour 4 en grande surface. On en est à peu près là, 250 euros. Donc quand les gens me disent « moi, j'ai pas les moyens d'aller au marché », non. C'est juste que tu vas acheter tout du préparé, tout du suremballé, un max de sucre, un max de trucs dont tu n'as pas besoin. Évidemment, moi, je t'invite à faire des tartes et des soupes. C'est moins excitant, hein ? Mais de faire son marché, ça coûte beaucoup moins cher. Et vous allez gagner le goût, et puis vous allez voir, comme pour toujours pour le zéro déchet, vous allez protéger votre santé, des meilleurs produits, l'environnement, évidemment, pas d'emballage, des meilleurs produits. C'est top, le zéro déchet. Ça donne ça en image. Ben, on retrouve la crème fraîche, le beurre, le fromage. Tous nos bocaux, on a une collecte de bocaux, elle est classe. Hein. Du sucre avec la farine, les haricots, la semoule, les pâtes. Les fruits et légumes avec ambiance poireau artichaut. Patates douces. Donc vous avez compris que tous ces produits-là sont bruts, non transformés, voire ultra transformés. Vous savez que c'est un terme maintenant qui est officiel, hein, ultra transformé en grande surface. Tous ces produits-là sont bruts, donc il va falloir cuisiner. Et voilà. Ah, je vous dis tout, hein, je vous mens pas. Hein. La clé, c'est la cuisine, évidemment. Bah oui. Il y en a qui me disent « ouais, mais moi, j'ai pas le temps ». Alors effectivement, si tu es 4 dans une grosse boîte qui fait 12 heures par jour, je peux comprendre que tu n'as pas envie de râper la carotte à 9 heures du soir. Effectivement. Mais si tu es comme la plupart des gens qui aujourd'hui font 35 heures, tu peux prendre le temps, si tu le veux, le soir, sur Netflix ou sur d'autres choses. Hein. Tu es à un moment donné où tu peux te caler. Nous, on a à peu près 30 minutes le soir en moyenne. Des fois, tu mets un quart d'heure parce que tu fais des œufs avec des pâtes, c'est rapide. Hein. Des fois, tu cuisines, tu fais une super tarte, machin, tu mets 45 minutes, j'en sais rien, une heure. Moi, j'insiste sur le fait que, un, il faut le faire. Et puis surtout, deux, c'est un plaisir. Moi, j'adore cuisiner. J'adore être dans la cuisine. C'est un moment où tu as la petite musique. Évidemment, comme tout le monde picole dans cette maison, tu as un verre de vin parce qu'il faut le goûter la dernière. Non, mais c'est un peu ça. Et puis, les enfants sont là avec toi. Et puis, ils apprennent à cuisiner. Ma fille, elle cuisine mieux que moi hein, aujourd'hui. Hein. C'est un truc de... Et puis surtout, tu gagnes en goût. Hein. Voilà. Donc, la clé, vous l'avez compris, il faut prendre ce temps. Je juge personne, il y en a qui n'ont pas envie de le prendre. En tout cas, si vous faites le zéro déchet de l'écologie, il faut prendre le temps de cuisiner. Une demi-heure, ça me semble être accessible quand on le décide. Voilà, et puis après, on va dérouler, vous allez voir tous les autres déchets. Là, on a fait l'alimentaire. Dans la cuisine, il y a un autre placard qui produit pas mal de déchets, c'est les emballages de produits ménagers, vous savez. Vous le visualisez, ce... Ouais. Là, on a vite... Moi, j'ai vu des placards où tu as vite 20-30 flacons, c'est facile, hein. T'as le pchit-pchit pour ci, le pchit-pchit pour ça, le canard qui est comme ça, le produit avec le bouchon rouge, celui avec le bouchon bleu, parce que j'ai évidemment, hein, y en a plein des rayons en grande surface. C'est un business, donc forcément, hein, t'en achètes. Hein. Alors, nous, au début, en 2014, on a dit, ok, stop, on veut pas tous ces emballages. Ah, c'est pause pipi. Tu reviens. Hein, on a viré tous les emballages, on s'est dit, ok, on arrête ces emballages-là. On arrête et on s'est mis à produire nous-mêmes notre lessive, nous-mêmes notre liquide vaisselle, nous-mêmes tous nos produits dont on avait besoin, avec juste du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, savon noir, huile essentielle, et puis soude en cristaux, percarbonate, acide citrique. Tout ça acheté en vrac et on s'est mis à fabriquer. Aujourd'hui, si vous n'avez pas envie de fabriquer, ne le faites pas. Nous, en 2014, il n'y avait pas de magasin de vrac en France. Il n'y avait pas. Tu avais juste les Biocop qui faisaient de la farine et les pâtes et tout. Donc on s'est mis, aujourd'hui, ne fabriquez rien. Allez acheter directement la lessive en vrac, les petites pastilles de la vaisselle en vrac, vous avez le dentifrice comme ci, comme ça. Vous avez tout ce que vous voulez dans le magasin de vrac et vous allez dépenser beaucoup moins d'argent. C'est des produits qui sont le plus souvent écolabellisés, qui ont beaucoup moins nocifs pour l'environnement et pour vous en plus. Donc solution, on a trouvé, on a viré tous les emballages, voilà ce qui nous reste. Nos produits, évidemment, achetés en vrac, nos savons sont achetés en vrac, nos éponges sont compostables. Elles sont végétales, évidemment. On fabrique notre propre produit ménager là, avec le vinaigre, avec du petit citron macéré dedans. Incroyable efficacité. Et le vinaigre, juste pour ceux qui pensent que ça pue le vinaigre chez toi, en fait, l'odeur s'en va. Hein. Tu peux mettre du vinaigre, ça ne dérange pas. Et puis, attention, révolution. On peut vivre sans sopalin. Eh si. On peut vivre sans sopalin. Non, mais c'est devenu un truc, le sopalin. Il trône dans la cuisine, il est là, tu sais. Pour un prétexte ou pour rien, c'est... Pour nettoyer, non mais c'est devenu n'importe quoi. Ben oui, c'est plus facile que de laver l'éponge, effectivement, ça mouille et ça pue. Donc, on a des torchons.
Waouh.
Torchon qu'on va laver, c'est le deuxième R des 4 R, vous vous rappelez? La réutilisation. On réutilise ces matières-là. Moi, les torchons chez moi, ils ont 10 ans, ils fonctionnent très bien. Et avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Hein. C'est du tissu. Souvent, c'est du tissu que tu peux récupérer, hein. Les fabriquer toi-même, les torchons. Hein. Tu peux même ne pas les acheter. Hein. Pareil pour la salle de bain. Ça, c'est le bilan annuel d'un Français qui se lave. C'est votre cas. Et qui va en grande surface, évidemment. Hein. On l'a compris. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, des gels douche, des shampoings, des crèmes, des dentifrices. Brosse à dents en plastique. Les serviettes hygiéniques jetables. 320 en moyenne annuelle. Bon, ça dépend des flux. Et puis, les rasoirs jetables. Si mon grand-père était là, il me disait, mais tu jettes ton rasoir, Jérémy, ça va pas bien, quoi. Ah oui, je jette le briquet aussi. Comment? On jette tout. Et puis, évidemment, les applicateurs de tampons en plastique, qui, quand ils finissent pas dans la poubelle, finissent... Évidemment. Ah, on s'en sert avec mon fils. On fait des tourelles sur les châteaux. Eh oui. Et puis tous les cotons-tiges, on les prend, on fait des balissades, on fait des chemins. C'est pratique. Hein. Ça s'appelle la laisse de mer. Vous connaissez la laisse de mer? C'est ce que la mer laisse quand elle fait son va-et-vient. Normalement, toute cette laisse de mer est organique. On va retrouver des déchets d'algues, etc., de graines, de bois. Là, on retrouve surtout du plastique. Hein. On retrouve des applicateurs de tampons, des cotons-tiges et puis tous ces petits trucs-là. Vous voyez ça? Les petits trucs blancs? Vous voyez ces petites boules? On appelle ça les larmes de sirène. C'est poétique. Hein. Ce sont des graines de PET, de plastique, que l'on va recycler. Parce qu'on en fait une matière, le plastique, quand on le recycle, on fait cette matière-là. Ce sont des petits granulés de PET, comme ça. Okay. Mais toutes les entreprises qui en font en mettent beaucoup à la baille. C'est-à-dire que ça passe à l'égout. Et, ouais. Et puis, de temps en temps, tu as les containers aussi qui se cassent la gueule en mer. Et puis, il y en a des milliards dans l'océan. Mais des milliards. Regardez la densité qu'il y a sur la laisse de mer. Allez-y, hein, l'océan, vous allez les trouver. Les marmite tears, les larmes de sirène, il y en a absolument partout, c'est incroyable. Et évidemment, alors ça, les poissons, ils les gobent. Hein. Ils n'ont pas bac plus 12, hein, les gars. Ça, c'est ce qui nous reste dans la salle de bain une fois qu'on a fait le zéro déchet. On a tout enlevé, vous avez vu? Qu'est-ce qui me reste? Brosse à dents en bois. Maintenant, on amène la brosse à dents, vous savez, où il y a juste la tête interchangeable. Nickel, éco-bilan, encore mieux que le bois. Allez-y. Véridique, hein, j'ai fait moi-même avec le bureau d'études hein, pour voir. Les huiles essentielles et puis la cup de madame qui n'est pas un déchet puisqu'elle est toujours en utilisation. Alors les cycles menstruels, c'est que du jetable. Vous avez vu, hein, les serviettes hygiéniques, les tampons, etc. Sortez de ça si vous voulez, hein, mais je vous conseille déjà pour votre santé. Parce que ces produits-là sont toxiques. Il y a une très belle étude sur que choisir. On retrouve dans ces celluloses-là l'ensemble des pesticides, fongicides, etc. Donc, qui ont été utilisés, évidemment. Ah oui. On retrouve des agents absorbants, chimiques, évidemment. Tout ça est toxique pour votre corps, mesdames. Donc, il y a des solutions qui sont très bien sur le durable. Le second R, on va réutiliser, même pour les ragnoutes. La cup, les serviettes hygiéniques que vous avez ici. Et puis maintenant, il y a les culottes menstruelles. Moi, ma fille, elle a 18 ans, c'est culottes menstruelles. On la met, elle utilise une journée, on les lave, elle en a un petit stock. Alors, au début, il faut les acheter, c'est un peu cher. Mais après, une fois que vous les avez, ben vous avez le stock, vous les lavez, vous les avez pour des années. Hein, des années. Hein. Je crois que les moins de 25 ans ont une aide de la sécu pour les acheter. On a une bourse pour les cycles menstruels. C'est pas un beau pays, ça? C'est de classe. Bon, et voilà donc ce qui nous reste. Toutes nos brosses sont en bois. Brosse à dents, brosse à cheveux, brosse à ongles. Nos savons, on les a tous achetés, évidemment, en vrac, sans emballage. Qu'est-ce qu'on a? Les lingettes démaquillantes. Vous avez vu, elles sont en quoi, les lingettes démaquillantes, aujourd'hui, les ronds, là? En coton. Vous savez que le coton, c'est une des pires productions agricoles au monde. Hein. C'est 25% des pesticides mondiaux, c'est le coton. On est au fin fond de l'Inde et du Bangladesh à détruire les sols, les nappes phréatiques et les communautés locales pour faire quoi? Du coton qu'on va utiliser une fois pour les brûler? Non mais c'est le non-sens total. Sortez de ce coton-là. Là, vous avez des lingettes démaquillantes qu'on va réutiliser. Celle-là, j'en 10 ans, elle marche très bien. La seconde R, la réutilisation. Pareil pour les mouchoirs. Les mouchoirs sont en tissu, sont plus en papier jetable. On a un stock de mouchoirs. Bon, quand t'es vraiment en rhino malade, tu te mouches la journée. Moi, je prends le rouleau de PQ, hein, j'avoue. Mais quand t'as besoin d'un mouchoir juste pour, voilà, mouchoir en tissu, ça va très bien. Vous avez été élevé mouchoir en tissu? Moi aussi. Moi, je me rappelle mon grand-père quand on faisait j'étais élevé dans le Lot, vous avez compris. Mon grand-père, quand on faisait le potager, lui, il le sortait de là, tu sais, comme ça. Il s'arrêtait de bêcher, vous savez. Sortait son truc, C'est pas un mouchoir, c'est une tête d'oreiller, le truc, tu sais. Il se mouchait avec ça. Et avec ses doigts tout tordus, là, comme ça, il le remettait comme ça. Et il rebêchait. C'est ce souvenir-là, quoi. Et puis tout le monde dit, ouais, mais c'est dégueulasse, les mouchoirs en tissu. Pour ça qu'on est massé aux mouchoirs en papier, c'est quand même beaucoup mieux. Mais t'es pas obligé d'attendre une semaine pour le changer aussi, hein. T'as plus 8 ans. Moi, quand j'avais 8 ans, effectivement, j'étais malade, mouchoir en tissu. Je mettais sous le coussin, tu sais. Au bout de 3 jours, c'est problématique. Je mouchais là. T'en mettais plus les doigts dans le mouchoir. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois, sauf que vous le jetez pas, vous le lavez, point. Réutilisation, on lave, on réutilise. Waouh, c'est dur, hein. Et puis, surtout, il y a eu un challenge. Alors là, le dentifrice. Tu sais, t'enlèves le tube, là, qui fait les trois couleurs, tu sais pas comment, là. Qu'est-ce qui te reste? Comment tu fais? Alors, on a tout essayé. Au début, on m'a dit, oui, c'est d'abord un lavage mécanique, on n'a pas besoin de produits, donc, à l'eau. Puis, c'est marrant, au bout d'une semaine, tu sais, au bureau, plus personne veut te parler, les réunions, tu sais, non, mais je décale, tu dis. Il y a un problème, donc tu dis, non, il faut que je me lave les dents. Après, on a essayé au savon. On a sur le savon, comme ça, et on s'est dit, bah ouais, ça va marcher, ça. Non, le faites pas. Ça s'appelle la punition, ça. Négatif. Bref. Après, on a essayé à l'huile de coco. Le coco, c'est plus pareil, c'est dégueulasse. Donc, on a fait un dentifrice qui marche à peu près. Je vous donne le truc. Une cuillère de bicarbonate, 3 cuillères d'argile blanche, quelques gouttes d'huile essentielle. Ça peut être menthe, citron, eucalyptus, ce que vous voulez. Et là, vous avez un dentifrice qui vous coûte rien, qui est pas nocif pour la santé, qui a pas de suremballage plastique et qui fonctionne très bien, quoi. Alors, au début, c'est sec. Ça mousse pas. Donc, dans l'univers, c'est compliqué. Moi, quand je reprends du dentifrice normal, t'as l'impression que tu as étouffé, quoi. C'est comme ça. Mais comment vous faites? Bon, voilà. Salle de bain, vous avez compris. On est passé en zéro déchet, juste avec un choix de consommation un petit peu différent, qui est pas non plus. On se garde les questions pour la fin? Avec les doigts. Non, papier toilette. Alors, papier toilette, il y a plusieurs solutions. Comment on a fait? Le problème du premier papier toilette, c'est surtout le blister plastique autour, quoi. Tout ça dans tes déchets qui vont dans ta poubelle. Parce que si tu prends un écolabel, t'es dans un truc qui est sur une pâte à papier recyclée, pas de chimie. C'est un truc qui est, en termes de cycle, c'est pas dégueu. Ça reste une cellulose, elle va se décomposer si tu compostes, donc bon, ça va à peu près. Selon les toilettes sèches, vous avez les toilettes sèches, là, ça, tout est composté, c'est génial. Bref. Et, c'est le problème. Sinon, il y en a qui utilisent juste une petite lingette pour les petites commissions et puis le papier toilette pour les grosses commissions. Voilà. Quand on est au PQ, c'est que vous avez fait tout le reste. Hein. Vous mangez local, vous avez... D'accord ? Ouais, je pense que... Mais oui, effectivement. Le mieux, nous on va à la Biocoop et à la Biocoop, tu as tous les rouleaux de papier toilette qui sont en vrac, il n'y a plus d'emballage et c'est un papier qui est écolabellisé. Là, t'es quand même bien. Ouais. Et le rouleau carton du milieu, après tu peux le composter si ça te fait plaisir ou le mettre au recyclage. Ça fait une matière qui est bien recyclage. Et puis il y a les enfants. Tiens, j'en vois deux. C'est pour vous les filles. Jeanne, Emma, concentration, merci. Je sais parce que j'ai dédicacé leur livre tout à l'heure. Les enfants. On est arrivé dans leur chambre, on a fait non, on n'y arrivera jamais, stop. C'est tombé. T'es déjà pour marcher, pour aller jusqu'au bout de la chambre, déjà t'as plus de pied. Incroyable, comment on va faire? On a commencé à regarder tout ce qu'ils avaient. Oh mon Dieu, mais c'est pas les enfants, c'est les écureuils. Ils stockent. Et il y en a deux partout. Et là, tu commences à regarder et tu commences à trier un peu de. Et en fait, tu te rends compte que tout ce qu'ils ont là, ils n'utilisent quasiment rien. Ils ont un mur, tu sais, ils ont un placard, c'est pas un placard, c'est un mur de jeux de société. Ils te sortent une fois de temps en temps la puissance 4 ou de la bonne paye, basta. Hein. Tout le reste dort. Ils ont des bacs entiers de jouets qui servent à rien. On a mis des roulettes pour les déplacer, pour circuler. Dedans, t'as le jeu qui sert, le top du jeu qui sert à rien, le jouet McDo. Il est là. Hein. Vous l'avez pas, vous, le jeu McDo, moi non plus, mais il y en a qui est long. On a vu tout ça, on se dit, OK, on va trier, on va enlever à peu près tout ce que vous n'avez pas besoin. 80% de la chambre, huit. On a commencé à faire des vide-greniers. On a commencé à, au début, ils voulaient pas. Et puis, ils ont commencé à vendre et voir les euros qui revenaient. Tu sais, ouais. Et les enfants, c'est vénal, hein, je vous le dis tout de suite. On les a eus à l'argent. Puis je vois la marchande, ils étaient contents. Il faut faire gaffe qu'ils ne redépensent pas les euros sur le vide-grenier, qu'ils restent là, il y a les euros. Et on a gardé vraiment l'essentiel, les jouets préférés. Donc chez nous, c'était Lego, Playmobil, ça c'est du plastique. Hein. Mais la durée de vie est tellement longue. Moi j'ai donné mes Lego à mes enfants. C'est une durée de vie sur 3 générations, on l'a amorti le plastique, ça vaut le coup. On a gardé les caplas, on a gardé les livres, on a gardé vraiment l'essentiel. Et puis le reste, on l'a vendu. Hein.
Et quand on a acheté surtout d'occasion. Je pense qu'il y a des jouets sur Terre pour 3 générations à venir. Allez-y à l'occasion, vous trouverez ce que vous voulez. Moi, mon fils était fan des Lego Star Wars. On l'a acheté d'occasion, on a revendu derrière, c'est un cycle nickel. Hein. Le temps que la passion arrive, c'est fait, quoi. Et puis surtout, on s'est inscrit à la ludothèque. Vous avez une ludothèque par ici ? Bah oui, en plus, j'avais une ludothèque. Non, mais incroyable, la ludothèque. Ça, c'est un vrai atout, quoi. La ludothèque, tu t'inscris pour combien ici ? C'est combien ? 4, 5 euros ? Peanuts. Même si tu habites sur la commune, c'est gratuit. Moi, chez moi, c'était ça. Ouais, c'est ça. Gratuit pour. Non, mais incroyable. Là, t'arrives, c'est la caverne d'Ali Baba, t'as les jeux de partout. Tu prends ce que tu veux. La première fois que j'ai dit ça aux enfants, prenez ce que vous voulez. C'est limite s'il n'y avait pas une larme. Tu prends le jeu, tu le ramènes à la maison, tu joues avec. Ce qu'ils adorent, les enfants, en fait, hein, c'est la nouveauté. Ils adorent les nouveaux trucs. Toi, avant d'acheter, tu stockais. Là, tu l'as loué, tu joues avec, et au bout de 2-3 jours, au lieu de le stocker avec les autres, tu le ramènes. La bibliothécaire, enfin la ludothécaire qui est une écolo qui s'ignore, va prendre le jeu, elle va le laver, le réparer, le trier, le remettre en circulation pour d'autres enfants. Ce jeu-là, il ne va pas être utilisé 3 jours par un enfant, il va être utilisé pendant des années par 300, 500 enfants. Là, je suis en train de vous décrire une économie clé, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Je n'achète pas l'objet, j'achète son usage. C'était une pierre angulaire du Grenelle de l'environnement en 2007. C'était de passer d'une économie qui génère de la richesse et du profit par la vente d'objets manufacturés à de la richesse par l'utilisation de ces objets-là et des services qui vont avec. Je vais l'illustrer autrement. Vous avez vu les jeux, ça marche. On va parler du bricolage. Le bricolage. À quoi ça sert d'avoir tous une perceuse qui dort ? Dans le garage ou dans le... La plupart des Français, ils ont une perceuse, ils l'utilisent 2 fois l'année. Je crois que le temps d'utilisation, c'est 2%. Je crois que cumulé dans une vie de perceuse, c'est 28 minutes. Non mais... Alors moi, je ne fais pas que bricoler. Oui, mais vous ne bricolez pas, vous êtes actif. La plupart des gens qui bossent, ils le sortent 2 week-ends dans l'année. Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir une perceuse, ni une visseuse. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Une bricothèque pour ces gens-là. Ils louent la perceuse. Pourquoi ? Ben parce que pour ces 2 week-ends-là, ils auront une perceuse de super qualité qui marchera très bien et puis ils n'auront pas à la stocker, ils vont la ramener. Après, ça leur coûtera beaucoup moins cher. Ils vont la louer quoi ? 5 euros ? C'est juste que ça coûte une perceuse, une bonne perceuse aujourd'hui. Tu as le temps de louer pendant 30 ans. Hein. Voilà ce qu'il faudrait faire, la bricothèque. Et le gars qui loue, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la réparer et essayer de la faire garder, la garder la plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que dans son business plan, au bout de 4-6 mois, il a amorti le coût de l'objet. Plus il va la garder, plus c'est du cash qui rentre dans son système. C'est ça le truc. C'est pareil pour les outils de jardinage. À quoi ça sert d'avoir tous une tondeuse ? Pourquoi on n'aurait pas une tondeuse pour plusieurs familles ? Ou une jarditech où tu vas louer ta tondeuse pour les 5 fois où tu vas tondre au printemps ? Vous savez ce que ça coûte une tondeuse aujourd'hui ? Et l'entretien, c'est un gouffre financier, une tondeuse. Louons-la. C'est pareil pour les appareils ménagers, la cuisine. À quoi ça sert là ? Tout ça, un appareil à raclette. Bon, j'ai dit ça à Chambéry, je me suis fait découper. Hein. Ils ont fait non ! Puis c'était un peu plus nombreux, donc ça fait du bruit. Non ! Mais moi, la raclette, j'en fais une à l'année ou deux. Mais je le loue, ou je demande à un voisin de me le prêter, ou partageons ces objets-là. L'appareil à raclette, c'est quoi ? C'est du Tefal, on est d'accord, hein, les petits téflons là. C'est recyclable, ça ? Ben non. C'est quoi ? C'est de l'acier et du plastique haute densité. Le téflon, c'est le plastique haute densité. Qu'on va, clac, mettre en alliage. On va pas le recycler, le truc. Évitons ces produits-là. Imaginez la quantité de matières premières, d'énergie, d'eau. C'est toujours la même logique que je vous donne depuis le début. Hein. Bricolage, loisirs, jardinage, cuisine, les jeux, livres, BD informatique, je vous en parlerai après, mais c'est à peu près ça. On pourrait aujourd'hui passer d'une économie qui va surexploiter la ressource planétaire, avec une économie qui est sur du partage. Ce qui est intéressant dans ce que je vous dis, c'est que dans ce modèle-là, les pays du Sud qui aujourd'hui n'ont pas accès à tout ça, pourraient avoir accès. Parce que là, on va partager la matière première, l'énergie. Ah, partager. Avec des gens qui, pour l'instant, juste accès à l'eau et à la décence. Hein. C'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau. C'est ça, par exemple, pour donner une petite idée. Alors que nous, on va consommer aujourd'hui des millions de litres d'eau pour consommer des produits. Vous voyez la logique dans laquelle on pourrait y être. Et puis au bout de tout ça, au bout du tri qu'on a fait dans notre vie, chez nous, on a éliminé un maximum de plastique, un maximum de trucs jetables, un maximum de trucs inutilisables, qu'on stocke, tout ça. Vous avez compris ? On a réduit, vraiment. Et au final, qu'est-ce qu'on a gardé ? 4 matières qui sont plutôt intéressantes. Le bois, l'inox, le métal et le verre. Je vous donne des exemples. On a un peu de vaisselle en bois. Ça fait des années que je les ai, ils marchent très bien. Des bocaux en verre. L'ensemble de ma batterie de cuisine est en inox et en cuivre. Les gens me disent, ouais, mais c'est super cher. Ouais, mais tu l'achètes une fois, ta batterie en cuivre. C'est à vie. En plus, on peut la réparer. Et puis, ces quatre matières, en fin de vie, est-ce qu'on va pouvoir les recycler? Ouais. 100%. Là, il n'y a pas d'alliage, il n'y a pas de perte. Tous ces objets-là sont utiles, durables et recyclables. Moi, je veux bien qu'on parle de recyclage à ce moment-là. Mais vos ustensiles de cuisine en plastique, vos poêles Tefal, tout ça, c'est non. Hein. Tout ça, c'est enfouissement et incinération. C'est tout ce qu'on sait faire. Hein. Donc, vous voyez que si vous changez vos habitudes d'achat et de consommation, vous allez avoir des bons résultats. Ça vaut le coup. Hein. Et puis surtout, je me balade, vous l'avez dit, hein, depuis 10 ans, j'ai fait des conférences un peu partout. Évidemment, sauf aujourd'hui, là, j'ai fait en voiture pour des raisons personnelles, mais j'ai tout fait en train. L'année dernière, j'ai fait 32 000 km en train. Tout en train. Tout le temps. Et quand je me balade, il faut que je sois zéro déchet. Je ne vais pas commencer à ramener des plastiques. Vous avez déjà essayé de manger dans une gare sans faire de déchets? Une station service. Lol. Tu peux pas. C'est impossible. Et dans une gare, c'est pareil. Donc quand je me déplace, j'ai mon kit zéro déchet qui va me permettre d'éviter tout ça. Alors quand vous êtes dans une gare et que vous voulez un sandwich, je vais aller chez... Vous allez chez qui dans la gare? Ah, ça me fait peur. Paul. Tout le monde va chez Paul, le petit artisan local. Qui a de la farine dans les cheveux avec son tablier, dit « Ah ça, Jérém, tu fais une conf ?» Non, Paul, c'est une femme et c'est une franchise, elle est multimillionnaire. C'est le modèle d'aujourd'hui, en fait, hein, économique. J'arrive chez Paul. « Bonjour, je vais vous prendre le sandwich, là, s'il vous plaît. » Elle te prend la pince anti-maladie, parce qu'on ne sait jamais. Elle prend ton sandwich. Là, tu te dis « Elle va te le donner. » Non. Elle te sort un étui long comme le bras, avec un côté plastique et un côté papier, pour que tu vois ce que tu as commandé, des fois que tu as oublié d'ici les 2 mètres de la caisse. Tu sais. Et en plus, on a eu, on peut pas le recycler, c'est un alliage. Oh, ça c'est quand même con. Hein. Elle va pour le mettre dedans, tu fais « Non !» Je veux pas le déchet non recyclable. Là tu, hein, comment? Je veux pas le déchet non recyclable. Je veux juste le sandwich. Bah oui, je vais le manger là, je vais le jeter 2 minutes après, on va le mettre dans la poubelle, est incinéré, ça sert à rien. Oula, vous êtes un original vous. Oui, c'est vrai. On me l'a dit certaines fois. C'est vrai. N'empêche que je veux que le sandwich. Et là je lui explique. Le plastique, il y en a plein les océans, les mammifères. Je lui fais une mini conf. Tu sais. Un quart d'heure. Je fais tout, je fais le cycle du plastique, le recyclage, la matière. Enfin. Ok. Au bout d'un quart d'heure, je dis, donc c'est bon, je prends le... Oui, oui, prenez-le. On le met où? Là, tu sors ton petit sac en tissu, elle le met dedans. Yes. Premier déchet, évité. Attention, t'emballes pas, il y en a d'autres. Je vais prendre un dessert, s'il vous plaît, aussi. Oui, oui. Là, tu l'as perdu. Hein. Elle est fou, elle est dans une sphère. Hein, tu sais. Elle te prend la pince, comme ça. Elle te prend le donut, je sais pas ce que t'as pris. Enfin, tu sais, un morceau de sucre, de toute façon. Elle te prend le dessert comme ça. Tu penses qu'elle a compris, tu as fait le topo, hein? Elle te sort un truc en papier grand comme une feuille A4 pour ton micro-truc, tu sais. Elle va te le mettre dedans, tu fais non! Je fais toujours le zéro déchet entre le plat et le dessert, hein. Moi, j'arrête jamais, hein. Ouh! Là, ça y est, elle commence à passer énervée, tu sais, tout rouge. Moi, je le mets où? Dans le même sac. Il y a déjà le sandwich. On s'en fout, ça passe tout par le même trou. Vas-y. Elle le met dedans. Tu penses avoir gagné. Là, l'ambiance est pourrie chez Paul. Ça fait un quart d'heure, tu lui prends la tête. Il y a une queue derrière toi. Tous les gars, ils sont là. Oh, la correspondance, t'es mignon. Mais, logiquement, il faudrait que tu t'en vas. Tu te dis, bon, ok, j'abandonne, tu sais. Non. Toi, tu fouilles au fond de ton sac, tu sais. Un café allongé, s'il vous plaît. Là, tu sais, elle presque s'évanouir. Elle peut pas gérer le truc tout seul. Elle fait, non, Janine? Janine, elle est au fond de chez Paul, tu sais, le couplet tomate au mois de janvier, tout va bien. Oui? J'ai un fou, il a un mug. Oula! Elle pose la tomate, qu'est-ce que c'est? Janine, elle arrive, la vraie française, est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'on a le droit de prendre le mug? Ou t'es là, oui, vous pouvez le refuser, mais vous pouvez le prendre, il sort du lave-vaisselle, il est nickel, comme ça on évite un carton et tout. Elle décide conjointement avec Janine qu'il faut que tu te casses maintenant. Elle te fond le café. Tu l'as perdu, hein. J'aurais tout vu dans ma journée, hein. Là, tu penses que c'est OK. Là, t'es limite de la danse du zéro déchet, de la joie de t'as gagné. Elle te donne le café comme ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Une touillette en plastique, tous les sucres sur-emballés.
Et puis un morceau comme ça de serviette à usage unique, tu sais, en papier. Non, je veux rien. Et là, tu fais la danse de la victoire. T'as gagné, t'as réussi à manger chez Paul, zéro déchet. Alors maintenant que vous allez chez Paul, allez-y de ma part. Hein. Mais oui, je viens de la part de Jérémy. Ah, oh, mais t'as 10% maintenant chez Paul, si tu viens avec ton mug. Et dans le bar du SNCF, du TGV, tu as 10% de moins sur ton café. Comme il coûte 12 euros ton café, tu sais, prends-les les 10%. Hein, c'est pas... Donc voilà ma victoire au bout de 10 ans. C'est beau, hein? Bon, je pleure intérieurement, hein, mais voilà. Donc quand je fais mes voyages, et c'est valable pour tous mes voyages, hein, c'est, tu peux, hein, j'ai évidemment ma boîte à pique-nique, je voulais amener, elle est là. Celle-là est très sympa, j'aime bien. Hop, je mets ma petite salade et mon petit dessert, clac. Comme les Japonais, vous savez, ils ont les bento, les Japonais. Ils sont beaux, leurs bento, ils sont en bois, trop bien. J'ai évidemment ma gourde. Je l'ai remplie, je ne sais pas combien de fois aujourd'hui. Imaginez le nombre de bouteilles en plastique qu'on évite. Je vous rappelle que quand vous buvez l'eau de la bouteille en plastique, vous buvez du... On devrait tous avoir une gourde à la naissance, tu sais, plutôt qu'une timbale ou j'en sais quoi. Une gourde pour tous les collègues de boulot. Offrez des gourdes, allez-y. Et toutes ces gourdes-là, on les re-remplit, on évite le plastique et on boit de l'eau. C'est assez simple, en fait. Et puis le petit mug. Moi, j'aime beaucoup mon petit mug. En plus, celui-là, il était offert par ma chérie, il ferme. Donc quand tu te balades, tu prends ton café, clac, et hop, tu vas jusqu'à ton train, tu t'assois et tu peux te boire chaud et tout, c'est trop bien. Voilà, avec mon petit kit que les enfants ont aussi, on arrive à faire du zéro déchet, même en voyage. Et ça, c'est pas mal. Voilà, au bout des 3 ans, vous l'avez compris, on est arrivé à peu près à trouver notre organisation. On a trouvé des solutions pour tout, sauf certains trucs. Je vous les donne tout de suite. Le vin. Je suis amateur de vin. J'ai fait un DU d'œnologie pour une reconversion. J'adore ça. Donc c'est toujours une petite bouteille, un cépage, un château, évidemment. Et je vous ai dit, mon premier volume de déchets aujourd'hui, moi, c'est ça. C'est le verre. C'est les bouteilles. Alors tout le monde te dit, mais c'est bon. Bah ouais. Bah ça se recycle. Ça fait combien d'années qu'on nous dit ça ? S'il y a bien un truc, moi souvent, hein, quand je vais chez les gens, je dis, ouais, je fais de l'écologie. Ah bah, moi je trie, hein. Alors le verre, c'est bon. C'est écologique de recycler le verre ? C'est écologique de recycler le verre, tu vas voir où je vais aller. Je refais le chemin du verre, je prends la bouteille, je l'ouvre, je sers mes 4 verres, oh, elle est vide. Et il y a 5 minutes, elle coûtait 20 balles la bouteille. Hein. Là, elle ne coûte plus rien. Qu'est-ce que c'est ? Je vais au tri, je fais chouing, cling. Bah, elle est cassée, c'est quand même con, elle marchait bien il y a 5 minutes. Hein ? Là, il y a un camion qui passe, fait une chrrr, avec des gros gasoil, des gros pneus, je t'emmène ça au centre de tri, on va stocker. Là, il y a d'autres camions qui reviennent, chrrr. On va emmener tout le verre comme ça. Là, déjà, premier truc à faire avant de le recycler, enlever tous les couvercles, toutes les étiquettes, tous les restes de ketchup, de moutarde, de confiote, de tout ce que vous voulez. Imaginez déjà, rien que l'infrastructure, l'énergie qu'il va falloir pour tout ça. Ensuite, il y a des chaînes de tri comme ça, tapis roulant. On a des détecteurs optiques qui vont nous détecter le verre de couleur, le verre blanc, parce que ça ne se recycle pas ensemble. Okay, imaginez, l'électronique embarquée, hein, on en est là. Ensuite, on a dans un four à 1400 degrés, s'il vous plaît, bonjour l'énergie, pour fondre ce verre, refabriquer la même bouteille, la mettre sur une palette avec du blister pour la donner à votre vigneron, pour mettre le même vin, pour vous le revendre au même endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans l'écologie et s'éviter tout ça ? Réutiliser la bouteille. Au lieu de, paf, la casser, pourquoi on ne les consigne pas ? Selon l'ADEME, l'agence que vous connaissez bien, 80% de CO2 économisé sur une bouteille de vin dans un rayon de 100 km. Vous avez vu tous de la clairette, là ? Eh bien, on lui ramène à Jaillance sa bouteille. Et puis, il va nous remettre la même dedans. Et puis, on s'appelle. Pourquoi on ne le fait pas ? Hein ? On le faisait dans le temps. On allait à l'épicerie, on se rappelle, hein ? Il y avait tous les bacs derrière. Moi, je faisais tous les bouchons coca pour aller point. Ben voilà. Ben oui. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, les bouteilles de vin, elles avaient des étoiles. Eh oui. Qu'est-ce qui se passait, la bouteille ? On la remplissait. Qui avait la responsabilité de la cagette ? Parce que tout est là. Hein. Qui avait la responsabilité de la cagette chez l'épicier, avec tout le verre dedans ? Le distributeur et le producteur. OK ? C'est eux qui avaient la responsabilité de se recoller la bouteille. Ça leur coûtait un bras. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont basculé ça sur le consommateur et la collectivité en nous racontant quoi ? Que c'était bon pour l'environnement, puisque c'était du recyclage. Premier Moloch de tri, qui l'a mis dans la rue? C'était en 1973 à Paris. Qui a mis le premier Moloch de récupération du verre? Véridique, hein, vous allez voir sur Internet après, cherchez. Le cartel du verre, créé par, en tête, Saint-Gobain, évidemment. C'est eux qui ont mis les premiers Moloch de tri, en nous disant, le recyclage, c'est vertueux. Puis même à l'époque, tu donnais un peu de sous pour l'ARC, pour la recherche pour le cancer, c'était top. Bon, il s'est barré avec la caisse, le gars, mais... C'est ça qui s'est passé. Pourquoi? Parce que les producteurs et les distributeurs voulaient basculer ça sur... Et il fallait que ce soit socialement et collectivement acceptable. Recyclage. Voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, tu pètes une verre, le gars, il récupère la matière première secondaire pour te refaire la même bouteille et te la revendre. Bon, moi, ça s'appelle une escroquerie, perso, hein, mais c'est ça le système. Évidemment qu'il faudrait qu'on mette la consigne en place. Pourquoi elle ne se met pas en place aujourd'hui? Parce que moi, je ne l'ai pas là où j'habite, hein, je n'ai pas la consigne. Hein. J'en rêve. Hein. Pourquoi elle ne se met pas en place? Parce que la taille du lobby, je parle de Saint-Gobain, là, hein, c'est une des premières industries mondiales. Donc on est toujours dans cette idée que recycler le verre, c'est bien. Bah écoutez, vous voulez qu'on lutte contre le changement climatique ou qu'on reste à 2 degrés? Allez, on met en place la consigne à l'échelle nationale, européenne, mondiale. Il y a d'autres pays qui le font bien, la Belgique, l'Allemagne, ils sont bien meilleurs que nous là-dedans. Nous, on a Saint-Gobain, par contre, c'est plus compliqué. Donc, évidemment que là, vous avez du verre à recycler, mettez-le à recycler, évidemment. Mais si vous pouvez acheter du verre consigné, la Biocoop fait du vin maintenant consigné. Il y a des bouteilles de bière qui sont consignées, il y a des producteurs dans la vallée qui font... Allez vers ça, allez vers ces produits-là, on sera dans une logique de consigne. Si vous avez du verre que vous ne pouvez pas faire, évidemment, mettez-le à recycler. Je ne vais pas vous dire de le jeter dans la forêt non plus. Ça va comme ça? C'est bon? Okay. Médicaments? Les médicaments. Plastique, aluminium collé, bam. Il reste des médicaments, boum, incinération. Moi, je rêve d'avoir des pharmacies en vrac. Ouais, évidemment, comme dans certains pays. Hein. Quand dans certains pays, tu n'as pas les moyens pour les médicaments. Donc, tu l'as en vrac. Moi, je rêve d'arriver. Bonjour, j'ai 8 jours de traitement matin et soir. Voilà, vos 16 pilules dans le pilulier, blim, blim. Rentrez chez vous, merci. Zéro consommation, zéro emballage, zéro déchet, zéro gaspillage. Ouais, top. Je vous dis pas pourquoi la taille du lobby pharmaceutique, on fait pas du vrac. Hein. Vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je passe. Et puis, j'ai 3 grands soucis aujourd'hui, enfin 2 grands. Le premier, c'est tous les appareils numériques. On est tous dans une société numérisée. Le téléphone, le smartphone. Vous vous rappelez le premier téléphone, c'était quand? C'était l'iPhone 1. Non. 2008. 2008, iPhone 1. On en est au combien là? Je sais même plus. 18 maintenant. Je crois que j'étais au 14, alors, tu vois. 18. Premier iPhone, 2008. Non, mais c'est hier, 2008, en fait. C'est hier. Personne n'avait de téléphone à ce moment-là. Ou alors on avait les Nokia, tu sais, qui cassaient jamais, là. Les 130, je sais pas quoi. Ouais, il te fallait faire un texto, il te fallait 2 heures. Ah. C'est. Et là, on a tous des Fairphones. Des smartphones, pardon. On a tous des smartphones, ok. Cette année, on a mis plus d'un milliard de smartphones en circulation. Depuis le début des smartphones, je crois qu'on en est cumulé à plus de 14 milliards. C'est monstrueux. Sans jamais se poser la question, ni de la conception, pour qu'elle soit écologique, peut-être quelque chose, ni de la durée de vie, pour l'allonger. Tout ce qu'on fait, c'est la réduire au maximum pour vous faire racheter. Hein. Ça, c'est l'obsolescence culturelle, d'abord, le marketing. Hein. 80% des smartphones, on les remplace, ils marchent encore, hein, pour vous dire. Hein. C'est la pub. Hein. Et puis, la fin de vie. Quel est le pourcentage de recyclage des smartphones aujourd'hui? Vous allez me le donner. On en a combien de recyclage? Zéro. On ne recycle pas un smartphone. Un smartphone, c'est 40 métaux et terres rares en alliage. En alliage. Essayez d'ouvrir un iPhone déjà. On ne recycle pas un smartphone. On est au mieux, on pourrait récupérer certains composants, être dans une démarche de reconditionnement. Et au pire, si vraiment on voulait faire du recyclage, même vraiment technique, ce serait des systèmes de pyrolyse pour faire fondre les métaux. Certains pourraient se récupérer, allez, on va dire l'or, le cuivre. Mais sur les 40, on va récupérer peut-être 2 à un coût énergétique qui aujourd'hui n'a aucun intérêt. On ne recycle pas un smartphone. Donc qu'est-ce qui se passe avec tous ces déchets? Alors je parle de smartphone, mais je parle aussi des ordinateurs, des appareils électriques, etc. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces objets-là? On les emmène à la déchetterie. Et nous, là, on est bien là. Là, on a fait le job. Là, on est citoyen, on est arrivé. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces objets après? Vous êtes allé voir? Vous allez chercher? Vous êtes renseigné? Eh bien, ils repartent. On les met dans des containers. La loi européenne l'interdit. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. En toute illégalité, l'ensemble des gouvernements occidentaux mettent tout ça dans des containers et les envoient directement en Asie ou en Afrique. En Afrique, ils arrivent sur la Côte d'Or. Abidjan, Ghana, Accra. Vous connaissez le Ghana? Je fais une mission de 3 mois là-bas, au Ghana. Allez voir Accra. Regardez, il y a un très bon documentaire qui s'appelle E-Waste Tragedy. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, tous les containers arrivent. C'est à peu près une zone qui regroupe entre 6 000 et 8 000 personnes, c'est-à-dire une petite ville. Vous êtes combien à Saint-Jean? 3 000. Deux fois Saint-Jean, qui va récupérer à peu près tous les ordinateurs, les téléphones, etc., vont être désossés à ciel ouvert, on brûle les plastiques dans des tonneaux, tout ça est stocké, tous les gamins sont pieds nus, c'est des précaires, hein, beaucoup les gamins, les cours d'eau, les sols, voilà comment finissent nos smartphones. On est dans l'écologie zéro. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vous ai donné la solution de tout à l'heure, on en a parlé, l'économie de la fonctionnalité. Alors je vous présente mon téléphone. Moi j'ai un Fairphone, vous connaissez le Fairphone? C'est un téléphone qui est hollandais, qui est sourcé équitablement sur les métaux les plus clés, c'est-à-dire le cuivre, l'or, c'est sensible hein, tout ça, on va exploiter ça dans des pays, dans des conditions absolument effroyables. Là ils ont des filières à peu près équitables, on paye bien les gens. Okay. Ensuite, ce Fairphone-là, il ne m'appartient pas, je le loue. À une boîte qui s'appelle Common, qui est à Strasbourg. Ça fait 6 ans que je suis chez eux. J'ai le même téléphone. Tous les composants à l'intérieur sont vissés. J'ai déjà réparé 3 fois. Donc Common, il m'envoie la pièce, que ce soit l'appareil photo ou le micro quand il ne marche plus. C'est une petite pièce que je dévisse. Je le renvoie, il m'envoie, je la revisse. Terminé. Je suis dans la réparation, la location. Ça fait 6 ans que je l'ai. J'espère que je vais le garder encore, je ne sais pas, 4, 10 ans, j'en sais rien. Voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Pour qu'on continue à avoir des téléphones qui sont finalement devenus indispensables pour tout, qu'on soit dans une démarche des 4 R, d'économie circulaire. On en est à des années-lumière aujourd'hui, et c'est valable pour tout. Hein. Et Common, cette société, elle fait aussi la même chose pour les PC, elle fait des PC en location, durables, réparables, reboostables, changeables. On pourrait tout réparer, etc. On est dans une logique de business où les gros qui sont de monde aujourd'hui, qui sont Samsung et Apple, les gros, Samsung est l'entreprise la plus rentable du monde. La plus rentable du monde. Ils font à peu près 40 milliards de bénéfices nets par mois. Samsung, hein. C'est un truc de dingue. On en est là, parce que ce profit, il est énorme. Bref, vous l'avez compris, je vous ai donné des solutions, c'est possible. Là où j'ai pas de solution, et ça c'est mon grand souci, j'habite dans les Pyrénées, dans une vallée, c'est la voiture. Si j'ai pas de voiture, comme 50% des Français qui habitent en campagne, je fais comment? Et moi, en termes de déchets, une voiture, c'est 1,5 tonne qui arrive à la fin. Ça rentre pas dans le bocal. Hein. Oui. Plus tout l'entretien, hein, les plaquettes, les vidanges, les pièces. Comment on fait? Alors quand on est en ville, c'est bien de ne pas avoir de voiture, tu peux. Hein. Les trams, les métros, les scooters, tout ce que tu veux pour ne pas avoir de bagnole, tu peux. À pied, en vélo. Et là, on ne va pas aller au boulot en vélo hein, dans le Royaume. Je pense que ça va être compliqué pour ceux qui peuvent, qui sont à côté. Mais moi, je ne peux pas. Dans ma vie, je ne peux pas. Donc j'ai une voiture. Et malheureusement, je n'ai pas de solution. Ça, c'est le gros souci aujourd'hui pour les ruraux hein, en France. Hein. Il faudrait qu'on ait plus de transports collectifs, qu'on partage, etc. Mais bon, là, on en est loin. Hyper loin, malheureusement. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a mis en place. Il me reste plus que 10 minutes, après j'arrête, hein, rassurez-vous. Tout ce qu'on a mis en place pour faire du zéro déchet, c'est le mind map du zéro déchet. C'est toutes les actions qu'on peut mettre en place, vous l'avez vu, hein, dans la cuisine, pour les enfants, pour les courses, etc. Alors quand on voit ça, on se dit, mais les fous, évidemment, si vous voulez tout faire en un mois, ça va être compliqué. Hein. Vous allez faire le burn-out du zéro déchet. Il y en a qui le font, on reçoit des mails hein, de temps en temps. Oui, je crois que je vais le quitter. Alors il, c'est... Le conjoint, souvent c'est la femme qui ramène, vous avez vu, c'est souvent elle qui ramène, c'est pas du tout sexiste ce que je suis en train de dire, hein. C'est un constat pur et simple. 80% des personnes qui font le zéro déchet, c'est les femmes, 25-35. Premier enfant, conscience, bam, zéro déchet, écologie, c'est ça. Et puis l'homme qui voit avec sa femme qui revient d'une conférence, elle allait voir un gars, je sais pas qui c'était. C'est bon, t'es fini, hein. Comment? Les chips, le gars il fait, ouf, qu'est-ce qui lui arrive encore? Et toi, tu reçois un mail 2 mois après. Oui, il a encore rien compris. Il est revenu avec un paquet de chips. Je crois que je vais le quitter. Oula, madame, calmez-vous, il a des qualités. Ouais, je sais qu'il y en a certains, c'est un peu ça. Il a des qualités. Oh, je rabiboche, hein, j'essaye de. Mais oui, si tu arrives et que tu veux faire le zéro déchet en un mois, tu vas faire la révolution dans la famille, tu vas perdre tout le monde. Il faut être patient. Ça prend du temps. Ça nous a pris 3 ans pour arriver au bocal. 3 ans. Donc soyez patient. Par contre, attaquez. Faites. Attaquez parce que vous voulez. Le truc qui vous fait plaisir. Si c'est les lingettes démaquillantes, ou si c'est les tartes, ou si c'est le téléphone, faites un truc qui vous plaît. Parce que le truc, c'est quand on met le doigt dans l'engrenage, on a envie d'aller plus loin. Après, il y a des phases. Hein. Des phases de régression. J'ai racheté des chips. Moi, c'est le chocolat. Ma régression, c'est le chocolat. C'est simple. Hein. Quand je me remets à acheter des chocolats en tablette, c'est que je suis en pleine régression. Hein, c'est terminé. C'est vrai. Hein. Soyez patient et soyez indulgent. Avec vous-même, vous n'êtes pas parfait. Vous faites partie du système. On fait tous partie du système. C'est compliqué. Hein. On ne peut pas être hors système. Non. On travaille, on consomme, etc. Par contre, il y a plein de choses à faire. On peut le faire. Prenez le temps, faites-le. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est commencer et aller le plus loin possible. Voilà. Vraiment. Sincèrement. Je pense que vous le ferez. J'espère. Est-ce que ça vaut le coup ? Ah, c'est ça. On arrive au bout des 3 ans. Est-ce que ça vaut le coup ? Alors moi, je suis très bureau d'études, j'en ai monté, j'ai bossé sur les bilans carbone, j'ai bossé sur tout ça, je suis vraiment très ACV et compagnie, analyse de cycle de vie. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, on va faire l'ACV de notre famille, au bout de 3 ans. Analyse de cycle de vie, vous savez, c'est du tombeau à... je suis fatigué. Du début à la fin d'un produit, on mesure l'ensemble des émissions, produits, eau, etc. Donc je voulais faire ça pour ma famille. On a fait un grand tableur Excel, et dedans, on a mis tout ce qu'on consommait avant et tout ce qu'on consommait après. Ok ? Et puis... je voulais avoir les émissions carbone, les ressources consommées et la flotte. Et j'ai donné ce tableur Excel à 2 ingénieurs en éco-conception, un bureau d'études sur Pau, et 5 étudiants à l'UT de Bordeaux. Ils étaient 8 pendant 1 an sur le tableur Excel. Et on faisait des réunions. Alors, t'as trouvé la farine ? Ouais, je crois que ça vient d'Ukraine. Et pendant 1 an, on a essayé de renseigner. Impossible de renseigner toutes les cases. On n'a même pas les infos. Quand un truc vient du fin fond de la Chine, l'impact sur le bassin versant de flotte est impossible à savoir. Bref. Là, je vous ai mis quand même un truc qu'on est capable de mesurer, c'est le bilan carbone. Vous connaissez les bilans carbone, hein ? Le bilan carbone de notre famille, au bout de 3 ans, voilà ce que ça donne. Ben, vous avez vu, mon gros problème, c'est le transport, c'est la voiture. Ça l'est toujours, hein, d'ailleurs. Par contre, en termes d'alimentation et de consommation, ça, c'est intéressant. On est devenu durable. Durable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en dessous des émissions carbone possibles par an et par personne si on était 8 milliards sur Terre et qu'on voulait rester dans les 2 degrés de réchauffement climatique. Bref, en gros, l'alimentation, on a divisé par 4 nos émissions carbone avec le zéro déchet. Par 4. Pourquoi ? Parce que ce qui coûte de l'énergie aujourd'hui dans notre alimentation, de grande surface, c'est la transformation de tout ça. Imaginez la pizza. La farine, elle vient du fin fond des pays de l'Est, les olives du fin fond de la Grèce, les tomates de Chine, premier producteur de tomates mondiales, c'est la Chine, merci. Tout ça va venir être produit dans des conditions évidemment intensives, transformées. Imaginez le coût énergétique de votre pizza Buitoni surgelée à moins 15 degrés. Là. Mais c'est ça. Pour tomber malade, en fait, parce que la plupart du temps, la chaîne du froid, elle est zappée. T'as vu ? Donc, c'est ça qui coûte cher aujourd'hui notre alimentation, c'est sa transformation. Quand on fait du zéro déchet, qu'on achète des produits bruts, en circuit court, le plus local, le plus extensif, le plus vertueux possible, on divise par 4, parce que qu'est-ce qui reste comme émission carbone ? Ben, il reste juste l'émission de l'agriculteur qui a fabriqué ça, ou de l'éleveur qui est à côté de chez toi. C'est tout ce qui nous reste, ben, c'est 4 fois moins. Ça vaut le coup, hein, zéro déchet, les circuits courts. Vous voulez qu'on fasse, on reste à 2 degrés d'échauffement climatique ? Allez, transition alimentaire sur tous les territoires, circuit court, pour tous les villages, pour les villes. Une ville comme Paris, 3 jours d'autonomie alimentaire. 80% de ce que consomment les Parisiens viennent en dehors de l'Île-de-France et du territoire français. C'est fou, hein ? Et puis, en consommation d'objets, quand on est dans les 4 R, la réutilisation, la réparation, l'occasion, tout ça, la mutualisation, le partage, ben on a divisé par 3 nos émissions carbone. Ben ouais, évidemment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dès que vous achetez l'occasion, énergie, matière, eau, ça vaut le coup. Hein ? Donc, vous vous rappelez le petit iceberg au début, là ? On disait 590 kilos de déchets égale... Ben, quand vous êtes dans la réduction de vos déchets, vous attaquez aux symptômes de tout ça, vous allez résoudre le début de la maladie. Donc vous allez réduire votre quantité d'eau, d'émissions de carbone et de ressources consommées. Ce n'est pas une fatalité, tout ça, en fait. Ce n'est absolument pas une fatalité, ce qu'on vit aujourd'hui. C'est le résultat d'un choix. Et dont on est tous responsables. Évidemment, c'est le choix des grands de ce monde, de nos élites politiques, industrielles. On est d'accord, mais à quel moment Et ça, j'aime bien le dire quand je vais dans les lycées. Vous savez, je suis souvent dans les lycées ou les facs. J'aime bien les étudiants. Est-ce que tu es obligé d'aller au McDo ? Qui t'a obligé à acheter sur Amazon ou sur Temu ? Qui t'a obligé à aller chez Carrefour ? Mais personne, en fait. Faites ce choix. On peut. Évidemment que les choix individuels, on ne changera pas le monde et qu'il faudra des choix collectifs et politiques. Mais si l'individu, on ne le fait pas, ça ne marchera pas non plus. Hein. Les deux, je vous l'ai dit au début, sont corrélés. Et ça vaut le coup. Hein. On a divisé par 4 nos émissions carbone. Et puis au passage, en plus, on dépense beaucoup moins. Vous avez vu pour l'alimentaire, 150 au lieu de 250 euros. Quand vous allez arrêter d'aller faire du shopping, bah vous dépensez moins. Quand vous achetez d'occasion, bah ça coûte beaucoup moins cher. Un jean chez Emmaüs, bah, il coûte beaucoup moins cher. Bah oui, effectivement. Vous allez protéger en plus votre santé. Vous sortez de l'emballage de l'alimentaire industriel qui est gavé de tout ce que vous pouvez imaginer, d'additifs, de sucre, première drogue. Le sucre, catégorie 2, hein, il y en a partout dans les produits alimentaires, mais oui. Quelles sont les 3 premières causes de mortalité en France, vous les connaissez ? Première, vas-y, cancer, non, tout genre. Deuxième, l'alcool est générateur de cancer, plutôt. Deuxième, diabète. Diabète 2 chez les jeunes, de dingue, hein ? Ben oui, ils boivent du Red Bull à 8h du matin. Red Bull, c'est 40 grammes hein, de sucre. Chut. Ça va vite, hein ? Troisième cause de mortalité, conjointement avec le tabac, l'obésité et tous les maladies morbides qui vont avec, cardiovasculaires, etc. Bah, tout ça est lié à notre mauvaise bouffe, mauvaise consommation, etc. Produits surtransformés. Bah, oui. Donc vous allez protéger votre santé en faisant du zéro déchet. Protéger ça sur le long terme, ça vaut le coup. Hein. Et oui, et ça fait du bien au mental en plus, à la santé mentale. Les gens qui me disent, ouais, mais quand je vois l'état du monde, etc., et en étant acteur, ça fait du bien. Voilà. La seule façon pour un être humain de gérer son stress, c'est d'être dans l'action. Le stress est fait pour ça, pour mobiliser les cerveaux. C'est le principe du fonctionnement du corps humain. D'accord ? Plus on est stress et plus on va répondre par l'action, plus on va détendre ce stress. C'est valable pour l'écologie. Tous les gens qui me disent « ouais, ben, agis, fais. Fais pour toi, fais collectivement, fais en local. » C'est le seul moyen de se sortir de ce stress-là et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure, notre société est un choix aujourd'hui. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est le résultat d'un choix. Et nous sommes tous aujourd'hui à faire des choix individuels. Ce que j'explique aux étudiants et aux lycéens, choisis de ne pas acheter ça ou choisis d'acheter autre chose. Choisis d'encourager une filière locale, bio, des agriculteurs, plutôt que d'aller encourager. C'est toujours pareil. Hein. Et au final, les gens me disent « Ouais, mais Jérémy, ta sobriété volontaire, nanani. Moi, je veux pas perdre mon niveau de vie. » Ah ça, je veux pas perdre mon niveau de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le niveau de vie ? Moi, je regarde, j'habite toujours dans une maison avec un toit. J'ai de la chance. Hein. J'ai l'eau au robinet, j'ai un chauffage. Bon, je fais mon bois, mais je me chauffe au bois. J'ai de la chance, j'habite en France. J'habite en Europe. Je suis du bon côté de la planète, en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau aujourd'hui. 3 milliards d'individus sur Terre vivent avec 2 dollars par jour. C'est ça la réalité de notre monde. On le voit même plus à la télé, on est noyé surtout. Mais c'est ça, la moitié de l'humanité là, vit avec 2 dollars par jour. Et nous, on est en train de se dire « Oh, mais moi, je veux pas aimer mon niveau de vie. » Mais moi, j'ai pas perdu mon niveau de vie. J'ai gagné en qualité de vie. Je dépense moins, donc je travaille moins, je mange mieux, je fais les économies. Ça va mieux pour ma santé, santé physique, mentale. En fait, le zéro déchet, vous allez comprendre, ce n'est que de la qualité de vie. C'est sortir de ce cercle dans lequel on est, qui est vicieux, de travailler toujours plus pour gagner plus, pour acheter des trucs qui nous simplifient la vie, pour travailler plus. Vous avez vu, c'est ça le cercle. Sortir de ce cercle-là, sobriété, simplicité, et on gagne en qualité de vie, évidemment. Zéro déchet, c'est exactement une action de transition écologique. Et ce que je vous ai décrit là, c'est que vertueux, en fait. Je peux que vous encourager, évidemment, à le faire. Voilà. Aïe, c'est fini. Merci, bon. Merci beaucoup, merci de votre écoute.
Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas évidemment.
Voilà. Ben, je me doute. Oui, complète sur le recyclage parce que je sens que tu es tendu. Je plaisante. Ça va, t'as vu, j'étais quand même correct. Hein. Ben oui.
Non, je voulais juste préciser, parce que tu as parlé du réemploi, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce qu'ils n'étaient pas là physiquement, mais sur le territoire, en fait, on a la chance d'avoir Ma Bouteille s'appelle Reviens. Et il y a énormément de producteurs sur le Royan-Vercors notamment, mais pas que, en fait, qui ont contracté avec eux Donc c'est du réemploi, hein, tout simplement des bouteilles qui sont lavées. Et récemment, ils ont contracté, tu parlais de vin, c'est pour ça que ça m'avait pensé à ça, avec Chapoutier. Donc j'ai des modèles, là je peux vous montrer le vin Chapoutier qui réutilise donc des bouteilles que vous pouvez ramener à la Biocoop. Il y a aussi chez les brasseurs, Laurine, c'est ça, du territoire, enfin vous connaissez. Et c'est vrai qu'on a la chance dans le Royan-Vercors, en tout cas, oui. On a cette solution et puis il y a énormément de producteurs locaux. Finalement, on a quand même cet accès, cette chance d'avoir un grand tissu d'acteurs. Je voulais dire autre chose et je ne sais plus ce que c'est. La Tooltech. Ok, après on a les recycleries aussi qui sont très actifs. Nous on a les recycleries aussi qui réparent. Les ordinateurs, il y a aussi les Tracol, ils réparent les ordinateurs. Enfin, c'est vrai que sur le Royan-Vercors, on a quand même un tissu d'associations et d'acteurs assez dynamique. Voilà, sur ce thème. Ouais, les voitures électriques. On a de l'autopartage aussi, nous, sur le Vercors. Oui, il y avait Oriane, d'ailleurs, qui présentait une voiture d'autopartage aujourd'hui. C'est dommage que tu n'aies pas pu arriver.
Mais là, tu peux me balader dans le Vercors avec une voiture, un gasoil. La voiture diesel, génial. Une question, peut-être dans le tas de...
Moi, j'ai 30 ans, premier enfant, conscience écologique, j'ai aidé à...
Est-ce que tu étais devenue chiante? Tu étais devenue chiante? Non, mais il faut aussi se regarder dans un miroir.
Chiante, oui, parce qu'en plus, j'ai été à Oxford, moi.
Ok. Ouais. Bioforce? Non. Okay. J'ai fait Bioforce.
Ouais.
Okay. Oui.
Mais c'était même pas le côté. J'ai essayé de convaincre les autres. En plus, quand je suis en train de partage,
mais qui es-tu pour dire aux autres ce qu'ils ont à faire? Non, mais c'est important ce que je veux dire. C'est très important parce que je fais une remise en question de l'écologie sur les 20 ans qui viennent de passer. Les problèmes des écolos, et j'en ai fait partie, et beaucoup l'ont fait, c'est qu'on allait donner des conseils à des gens qui ne l'ont pas demandé. Voilà. Mais ça, c'est la base de la relation humaine. On ne donne pas... Salut, merci. Ouais, ça marche. On ne donne pas un conseil à quelqu'un qui ne te l'a pas demandé. Si j'étais toi, si j'étais à ta place, n'importe qui vient vers toi, qui te dit, bah moi, à ta place, dans ton cerveau, tu vas faire but. Moi, je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me dire, à ta place, je ferai ça. Moi, si j'étais toi, j'achèterais pas ce truc-là, je prendrais celui-là. Mais... personne n'a envie d'entendre ça, pour tout en fait, que ce soit pour le boulot, pour la famille, pour l'éducation des enfants, et encore plus quand c'est un proche. Donc, et c'est là où l'écologie elle s'est fourvoyée, elle s'est plantée. Et quand je dis, un peu par maintenant, quand je vois des gens qui me disent un peu ce témoignage-là, ou d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres symptômes, hein, faites pour vous, faites le bien, faites-le au top pour être en accord avec vos valeurs et votre quotidien, le reste... Si on vient vous poser la question, ben tant mieux. Rayonne autour de toi, tu es une solution si jamais on te demande comment tu fais pour... Parce que moi, j'ai eu des gens, mais comment tu fais pour la lessive? Ok, je t'explique. Mais pour le téléphone, je n'ai pas compris. Là, comment tu... Ah, ok, je te file le plan. Mais moi, autour de moi, je suis entouré de gens dont l'écologie, ils n'en ont rien à foutre. S'ils peuvent se rouler en SUV le plus gros possible, ils espèrent avoir la thune pour avoir la piscine devant la maison, mais c'est le modèle. On vous fait envie avec toujours plus de consommation et tu n'as pas réussi ta vie si tu n'as pas réussi avec de l'argent. Et les jeunes sont là-dedans aujourd'hui, hein, beaucoup, toujours. Performance, argent, image et les réseaux sociaux renforcent ça. Donc je pense et sincèrement qu'on n'est personne pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire, et les écolos en premier. Voilà. Donc le truc c'est de faire pour soi, d'être en accord avec ses valeurs et ça n'a pas de prix par contre. D'être en accord avec ce qu'on pense dans sa vie, je pense que c'est peut-être ça la réussite au final, et le bonheur. Donc voilà, faites-le, et puis si on vous demande, vous dites, sinon le reste, voilà. Ils veulent bouffer des chips, ils veulent rouler avec je sais pas quoi, ils veulent dépenser de l'argent pour avoir des marques de merde qui sont produites. Et si on t'en parle, et ben voilà. C'est ça la clé, et c'est de le faire pour soi, on n'est personne pour aller obliger les gens. Voilà. Et ça n'empêche pas de le faire du coup, et d'être en accord, et de faire son truc. Voilà. Je m'en fous. J'ai arrêté de me battre pour ça. Ça n'a aucune importance. S'il n'a pas compris, un âne qui n'a pas soif, tu n'as pas l'âme des boire. Hein, ben voilà. On est entouré d'ânes. Ça s'appelle le facteur humain. Comme il disait Hubert Reeves, le putain de facteur humain, le PFH. Moi, j'ai managé pendant 25 piges. le PFH, si tu veux. Donc, t'es entouré d'ânes. Donc, le premier âne qui viendra vers toi et qui voudra, bah, tu lui donneras la carotte. Mais sinon, tu vas pas lui donner, mange. Donc, c'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est un truc de base qui nous a usé beaucoup d'écolo. Et moi, le premier. Hein, à un moment donné où. Et j'ai arrêté, quoi. Par contre, il y a des trucs qui étaient chez moi. Il y a des trucs qui étaient avec la famille, par exemple. Moi, quand j'allais Noël dans ma belle famille, c'est CSP++, médecin, maison de 300 mètres carrés, piscine, 4 véhicules. Et à Noël, c'est à peu près 15 cadeaux par enfant, suremballés dans le salon, et il y a 9 petits-enfants. Je ne sais pas si à l'état du salon le 25 au matin. Moi, je n'avais plus qu'à pleurer si je voulais vraiment. Ben, j'ai pas fait la leçon à ce moment-là, c'était pas possible. Et puis, ben, j'ai dû vivre avec ça pendant des années, et ça m'a fait chier. Et, ben, c'était pas mon mode de vie. À ce moment-là, tu fais quoi ? J'y vais plus. Ben, effectivement, ben, ben, c'est ça. Donc, faut le faire pour soi, le faire bien, et puis les autres, ben, espérons qu'ils arriveront à être convaincus un jour. En tout cas, s'ils veulent un conseil qu'ils viennent de donner, ben, là, tu te feras plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est le plus important, ouais. J'ai des super potes à moi, ils sont tout sauf. Ils sont l'inverse du zéro déchet. C'est quel pourcentage de la population, les gens qui vraiment sont dans l'action écolo, machin, c'est peut-être 4%, 5%. C'est les classes le plus souvent moyennes éduquées. Donc en fait, le reste de la population, ils ne sont pas dans le truc. Ils iront, comme dans le cas du Covid. Rappelle-toi, ils avaient 1 km pour faire les courses. Bizarrement, les circuits courts, tout le monde y était. Hein. Ils iront dans la nécessité, la contrainte, ou poursuivre. Parce que c'est devenu une mode. Où... Moi, j'ai eu de la chance, le zéro déchet. À un moment donné, on a été tellement à la mode que ah, tiens, et j'avais des salles de 600, 800 personnes. La moitié ne connaissait pas l'écologie. Donc, j'étais hyper heureux parce que là, j'étais en train de sensibiliser des primo-arrivants à l'écologie. Donc, j'ai eu de la chance. Mais parce qu'à un moment donné, on a fait envie. Ce n'est plus le cas du tout. Donc là, on est combien à être écolo sur Terre ? Donc, continuons à le faire et puis le faire pour soi. Je trouve qu'avant tout, avant de sauver le monde, il y a d'abord sa santé mentale. Et c'est ça, c'est le plus important. Hein. Pensez d'abord à vous, faites le bien. Et puis si tu as de la chance de rayonner ou si tu as de la chance de convaincre certains qui ont envie de l'être, tant mieux. Mais sinon, on va pas te... Sinon, tu es tout seul hein, après. Hein. Tu n'as plus d'amis, hein. Effectivement. Tu es en autarcie au fin fond de la forêt et c'est impossible. Alors, change-moi. Pas possible. Oui, mademoiselle. De quoi ? Ouais. Voilà, c'est ce que je t'ai décrit tout à l'heure. On est dans une logique dominée par l'argent, pas le bon sens, pas ce qu'il faudrait tous faire pour la planète. Effectivement, pour l'instant, on est là-dedans. Peut-être que ça durera pas. Hein. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. T'as raison. Ouais. Ma fille qui a 18 ans là, elle vient d'avoir 18 ans en avril. Donc bah, tu comptes, elle est née en 2008, donc on a commencé en 2008. Première naissance, prise de conscience à fond. Alors moi j'y étais depuis un moment déjà, mais quand tes enfants arrivent, tu prends une accélération sur la prise de conscience qui est absolument terrible. Tu dis mais oh, qu'est-ce que je... Et là tu veux être cohérent à 100%. C'est là qu'on a basculé, c'est 2008 avec mes enfants. Donc ils ont eu, ils ont jamais eu un petit pot blédina hein, industriel. Ils ont toujours eu, on avait un petit baby cook, tu mets une patate, une carotte, on avait la purée. Ils ont les couches lavables, on a fait nous-mêmes le liniment avec de l'eau de chaux et de l'huile d'olive. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Et donc, du coup, ils ont grandi dans une famille et une logique, on va dire, écologique, si tu veux. Mais à part ça, ils étaient à l'école avec tous leurs potes. Mais tu sais, ça se voit pas, hein, là. Ça se voit pas que je suis tout d'occasion. Non, mais tu es un mec normal, hein. Non. Non, pas du tout. Non. Aujourd'hui, ma fille 18 ans, elle est sur Vinted. Elle achète des trucs d'occasion, elle les revend dans cette logique-là. Elle cuisine super bien. Elle fait que des produits bruts. Elle fabrique ce que tu veux, un banana bread. Vraiment, elle est forte. Hein. est dans une logique de créativité, elle dessine beaucoup. Donc, mon fils, là, il est plutôt, là, il est 15 ans, le gars 15 ans, quoi. Le gars de 15 ans, comme je pouvais l'être. Hein. C'est... Lui, là, il n'y a plus rien. Vas-y, fais ta vie. Mais je sais que tout ce qu'il a enregistré, tout ce qu'il a vécu, c'est... Ouais. Non. Quand il va redevenir adulte et qu'il va commencer à se poser ses questions, il va avoir le choix. Et en tout cas, j'espère. Il va revenir vers ça. Ta question, c'est pour les gens qui se mettent au zéro déchet alors qu'ils ont déjà des enfants qui sont dans une autre logique. Là, ça peut être compliqué. Alors, quand c'est des enfants qui sont, comme on en parlait tout à l'heure, de 6, 7, 8 ans, ils sont hyper malléables. Les parents, c'est les super-héros. Si tu leur dis, on va arrêter les plastiques parce que les tortues, elles s'étouffent. Oh yes! Non, mais c'est ça. Et les enfants, ils sont binaires. Solution, problème, tac, tac. 1, 2. Donc, c'est assez facile. Là où c'est le plus compliqué, c'est l'adolescence. Effectivement, il y a une remise en question. Si tu commences le zéro déchet, ils sont ados. Waouh! Là, bonjour. Et de toute façon, par définition, l'adolescence, c'est un rejet. De tout ça pour moi-même trouver qui j'ai envie d'être. Et donc, ce rejet-là, il fait partie du truc, écolo, pas écolo, puis je vais pas prendre la tête à mon fils, il a 15 ans. Ouais, si t'as envie d'être avec tes potes et manger des chips et boire du truc, bah vas-y, c'est ce que je te dis. Ben, tu sais. Par contre, tu sais. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai souvent les témoignages, c'est un peu ça, hein, je crois, des gens qui s'y mettent du jour au lendemain, décident d'eux, et là, le changement, il est compliqué quand les habitudes, ou en tout cas les mauvaises habitudes de consommation, industriel était enregistré bien comme il faut. Waouh, c'est des négos. Hein. C'est pas facile. Là, c'est plus compliqué. Ouais. Et avec les... ben, comme la vie de tous les jours et comme j'allais dire les collègues de boulot ou comme les amis, il y a tout en fait. Ben, autour de moi, j'ai des potes. Là, je prends un exemple. À un moment donné, on a eu beaucoup de notoriété, on a été très très connus, j'ai beaucoup de médias. Je faisais les 7 filles dans le métro à Paris, tu vois le truc. Ouais, mais ça m'a saoulé. Hein. Ah ouais, je dis, c'est bon. Ah oui, c'est super. Donc les cousins et toute la famille étaient au courant. Donc c'était un peu les stars de la famille, tu sais. Donc on avait un peu profité de ça, à la limite. Et on a pu passer le message à ce moment-là. Tiens, là, ils avaient envie de savoir. Donc on a dit. Donc évidemment, ça a été ça. Mais ça les a pas non plus. Tu vois, ça a touché, comme dit c'était quoi Chirac, il a dit, ça touche l'une et puis pas l'autre, là. Ouais. Là, c'était un peu ça, ouais. Et c'est pareil pour les amis, c'est pareil pour la famille, c'est pareil. Voilà. J'ai des bons copains, je prends un exemple d'un pote, là, Jérôme, CSP++, Aix-en-Provence, il est ingénieur chez Turbomeca ou je sais pas quoi, les trucs. Il a 6-8 000 balles par mois. Plus sa voiture est grosse, plus sa maison est grosse, et plus il va loin en vacances, plus il a gagné, tu vois. C'est un pote, hein. Il est aux antipodes de mes valeurs. Je fais quoi? J'arrête de boire un coup avec lui? On s'entend sur autre chose. C'est ça l'amitié, c'est s'entendre sur un point. Mais ça ne veut pas dire que je ne valide pas tout ce que tu es. Voilà. Pour ça, voilà. Il faut être indulgent. Déjà, et d'une. Et qui suis-je pour vous imposer ma perfection? Je ne suis pas parfait, moi. Et puis c'est un engrenage. Enfin, moi, je pense. Ouais. Ouais, oui, oui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'être une petite partie de la solution. Ouais. Après, on est loin du compte, clairement. Malheureusement, ouais. On est loin du compte. Oui, bien sûr. Et on sait que tout doit tamponner, on fait déjà un certain nombre de choses. Bon, moi, ça m'affole un peu aussi, mais je ne sais pas comment faire. Ouais. Moi, je pense que ce qui réconcilie, ce qui marche bien, et ce que les écolos n'ont pas assez fait, et ce que je pense avoir fait plus avec Mountain Riders et Surfriders, c'est de donner envie. Ouais. Parce que souvent, les écolos, ils sont chiants, ils font la morale, ils sont dep, c'est pas rigolo. Alors que quand tu fais la fête, ou quand tu fais... Moi, j'aimais bien, c'était faire en fait, des discos soupes. Voilà, à une époque, je bossais à Darwin, à Bordeaux, qui est un écolieu qui est absolument magnifique, avec un skatepark, etc. Pour sensibiliser tous les skaters, qui en a rien à faire, on faisait des discos soupes. Donc, c'était la récolte de tous les fruits et légumes qui sont inconsommés, les tout goûts, ça. Et on faisait tous épluchage, des smoothies ou grosses soupes. Il y avait un gros DJ, on mettait du gros son, il y avait une compète de skate. Tout le message était nickel, ça marchait hyper bien. mais parce que ça donnait envie, c'était festif, et nous, on avait le prétexte du ride et du plaisir à glisser. Ouais, mais et ça a manqué beaucoup aux écolos. Là. Déjà, un, on a donné la leçon, et tout le monde, moi, le premier truc qu'on me dit, « Oh, moi, c'est bon, hein, la morale est donneur de leçons. » Mais parce qu'on l'a été. Oui, voilà. Alors maintenant, bah là, maintenant, il n'y a plus de limites. Oui, oui. Maintenant, on se tait. Mais on a donné trop la leçon et on a été trop chiant, anti-tout. Alors que moi, ma vie, elle n'est pas anti... J'ai pas arrêté de vivre. Et puis, il y a plein de belles choses. Et puis, c'est juste le faire autrement. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Ils ont l'impression que tu vas leur enlever leur téléphone, que tu vas leur enlever leur plaisir, qu'il faut... Et dans la tête de plein de gens, l'écologie, elle est chiante. Donc, faites la fête, là. Faites la fête. Montrez que ouh, c'est joyeux, c'est la teuf. Et dans la fête et l'apéro, ben, on se rejoint beaucoup plus que dans la leçon, en fait. C'est con ce que je dis, hein, mais c'est, je trouve, moi, que souvent, les moments écolos, eh ben, ils ne sont pas assez festifs, ils ne sont pas assez joyeux. Ou alors, profitez d'un moment festif qui est à la base, je sais pas, une compète de pétanque, machin, pour y mettre un truc écolo. Les gobelets, ça a marché. On les a pas empêchés de faire la fête. On a juste dit, on sort le plastique, ça vous va? Ouais. Ça a marché. Il faut pas être anti. Il faut donner une solution qui marche bien. Enfin bref, on peut faire le débat longtemps. Mais je trouve que dans la remise en question, voilà, parce que c'était ça la base des écolos, et j'en ai fait partie pendant 20 ans, on a mis la leçon et c'était pas joyeux, quoi. Et ça, ben, on l'a en pleine face aujourd'hui, clairement. Ben, tant mieux. Hein. Remettons-nous en question. Hein, mais... voilà. Désolé. Hein. Allez. Ouais. Ouais. Bah oui, bien sûr. T'es entouré de gens qui ne font pas. Qui est toujours là, qui augmente. Ouais. Ce qui prend du temps, c'est le changement. Une fois que tu as changé, moi, faire mon marché. Est-ce que je prends plus de temps à faire un marché, quoi, dans grande surface? Bah oui, je prends plus de temps parce que je prends mon temps. Mais si tu veux le faire en une demi-heure, le marché, il est fait. Hein. Moi, ça m'arrive de faire une demi-heure le marché de tâche. En ce moment, je le torche. Ouais. Je fais moins de temps que grande surface. C'est moins loin le marché, il est à côté de chez moi. Donc, hop. Oui, cuisiner. Mais bon, quand tu fais des pâtes et des œufs qui sont en vrac et local, plutôt que. Quelle est la différence là? Ton repas, c'est le même. Hein. Et puis souvent, moi, j'explique, mais quand tu manges comme ça, moi, tout l'hiver, je fais une soupe. La première soupe au premier soir, moi je la mets sur le poêle à bois parce que c'est tellement long et tellement bon comme ça. Le lendemain, tu la rallonges. Le troisième soir, tu mets des pâtes ou du riz dedans. Ça t'a coûté 1 € par tête hein, de manger là. Ça te coûte rien et à fabriquer, c'est le premier soir. Tu cuisines pas le deuxième, mais le troisième, tu réchauffes. Et c'est comme ça que faisaient les anciens. Ma grand-mère, elle avait le fait-tout, tartiner la graisse de canard, c'est parti. Hein. Et oui. Un soir, c'était la soupe au pain. Le lendemain, t'avais les pâtes dedans Non, mais c'était comme ça qu'on mangeait. Et c'était hyper bon. Je suis incapable de retrouver le goût de la soupe au pain de ma grand-mère parce qu'il était de tous les jours qui se rajoutait, ce bouillon-là. Et on a perdu ça. Pourquoi? Pour acheter du saumon en blister et des trucs pour te faire croire que tu peux manger du saumon toute l'année? En plus, on a tellement perdu en goût, en cohérence. Et ça coûte hyper cher. Là, ils se gavent. L'agroalimentaire, ils se gavent. J'ai l'impression que les gens filent leur salaire à l'agroalimentaire. Même moi, c'est à un moment donné, là, en ce moment, je me dis, mais... qui sont dégueux. Qui n'ont pas de sens. Donc, revenir à... Moi, l'été, c'est salade. Ah, je fais salade sur salade. Je mixe ce qu'il y a, tac, il reste deux trucs, je les mets dedans. Nous, on est très bowl à la maison. On fait des petites bowls avec une base de riz et dessus, on met ce qu'on a. Voilà. Un œuf, un bout de radis, 3 carottes, terminé, quoi. Et on mange très bien. Le vin, j'ai essayé. Ah, j'ai un peu alcoolique. Non, mais le vin, ce qui est compliqué, moi, j'ai essayé de faire en vrac. Et il y avait la Biocoop, ils proposaient à un moment donné le vrac. Mais tu bois toujours le même vin. Quel intérêt? Aucun. Là, en ce moment, la Biocoop, ils ont les 3-4 bouteilles consignées. Quand t'as fait trop les 3-4 bouteilles, t'as envie de boire autre chose, quoi. Moi, ce que j'aime dans le vin, c'est la diversité. Et c'est la surprise. Parce qu'une bouteille, c'est une surprise. Bah, pareil en grande surface, hein. Et d'ailleurs, les gens recherchent le goût. J'ai eu le débat sur les petits pois. Un pote, il dit, mais qu'est-ce que tu manges? T'es des petits pois en boîte. Ils sont dégueulasses. Ils sont tout petits. Ils ont mis du sucre dedans. Et c'est de la saumure. C'est immonde, le truc. Et il n'aimait pas mes petits bois tout frais. Alors que les petits bois tout frais, ils sont super bons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va racheter cette boîte tout le temps. La plupart de gens, ils ont quoi en diversité? 3-4 menus. Ils mangent toujours la même chose. Hein. Ils mangent toujours la même chose. Donc quand tu fais ton marché, tu as beaucoup plus de possibilités parce que tu as les saisons et puis tu as un éventail. Quand tu manges des produits bruts, tu manges beaucoup plus diversifié. Les gens disent, ouais, mais tu manges toujours la même chose, c'est rustique. Pas du tout. Je mange beaucoup plus diversifié que toi en grande surface. La plupart des gens en grande surface mangent quasiment toutes les mêmes choses. Et ils mangent surtout quoi? Des pâtes. Pâtes matin et soir, hein. Par des gens. Hein. Bon, merci beaucoup. Je vous laisse quand même retourner chez vous parce qu'il est tard. On a un apéro. Bon, merci en tout cas d'être venu. Hein. Merci à vous.